Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
6h58, excellent réveil à tous, c'est lundi, on est ensemble jusqu'à 9h, soyez les bienvenus dans Apolline Matin, lundi 1er juin, et écoutez...
Merci d'accueillir les doubles champions de remportite, le Paris Saint-Germain.
Après la deuxième victoire du PSG en Ligue des Champions, la joie et les violences. Près de 800 interpellations dans la nuit de samedi à dimanche partout en France. 71 villes touchées par des dégradations, une cinquantaine de policiers blessés. Côté pile, côté sport, la légende. Dans 10 minutes, Jean-Louis Tour sera avec nous. Il a suivi les Parisiens depuis 48 heures à Budapest puis au Parc des Princes. Il viendra nous dire pourquoi cette équipe est exceptionnelle. Et puis côté face, la casse. À 7h40, le représentant des commissaires de police sera mon invité dans ce studio. Il nous expliquera pourquoi le dispositif mis en place n'a pas permis de contenir les violences. Lui, il réclame le retour de l'autorité de l'État. Oui, mais comment? Et puis à 8h30, la politique. Mon invité dans le face-à-face, ce sera le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Il dénonce une violence d'atmosphère devenue insupportable. Pourquoi on fait la fête comme ça? Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs faire la fête sans débordement? Pourquoi les jeunes cassent? Et vous, vous en pensez quoi? Qu'en avez-vous vu? Avez-vous été témoin de ces violences? Vous venez débattre avec nous, réagir et nous raconter. Je vous attends au 3216 et sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Dans un instant, la météo, enfin le journal de 7h, mais d'abord justement la météo. À 6h59, on retrouve une température à peu près normale, Géraldine.
À peu près normale. Alors on reste toujours un petit peu au-dessus. Mais alors effectivement, rien à voir avec la semaine dernière. Là, on va avoir une journée plutôt tranquille, souvent bien ensoleillée. Ce sera un petit peu plus nuageux sur la pointe bretonne, avec même un petit peu de pluie cet après-midi. On a quelques orages vers les Pyrénées, les Alpes du Sud. Mais sinon, c'est un temps sec. Et donc avec ces températures, alors qui restent toujours un petit peu au-dessus des normales, je vous le disais, avec quand même 24 degrés à Lille cet après-midi, 26 à Paris, 27 à Bordeaux, Toulouse, 28 à Lyon, 31 à Marseille, jusqu'à 32 à Perpignan. Ça va d'ailleurs continuer de baisser un petit peu dans les prochains jours, avec demain une journée qui va être très agitée avec des averses orageuses sur tout le pays.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Il est 7h, excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un dimanche au paradis, celui des joueurs du PSG, célébré au lendemain d'un deuxième sacre européen par des milliers de supporters du Champ de Mars. Au Parc des Princes, RMC y était. La joie d'un côté, la violence de l'autre, avec des débordements plus nombreux que l'an dernier, largement dénoncés par Emmanuel Macron. Plus de 780 personnes ont été interpellées partout en France. C'est un record d'investissement historique attendu au Salon Choose France, à Versailles, avec en tête de gondole l'intelligence artificielle.
Paris fête le retour de ses doubles champions d'Europe.
Maillot, écharpe, drapeau, la capitale parée de rouge et de bleu. Des dizaines de milliers de supporters se sont retrouvés dans les rues de Paris pour célébrer ces héros arrivés de Budapest pour un moment de communion au Champ de Mars. D'abord face à la Tour Eiffel, l'image restera dans les mémoires. La fête s'est poursuivie plus tard au Parc des Princes. L'antre du PSG a sombré dans une douce folie devant 47 000 spectateurs en liesse venus Romain Hug célébrer le deuxième sacre des joueurs parisiens.
Il est presque 22h au Parc des Princes. L'ambiance est déjà totalement survoltée quand le speaker prend le micro.
Il est temps d'accueillir les héros de Budapest.
Un à un, les 22 joueurs entrent sur la pelouse. Certains lâchent quelques pas de danse, comme Désiré Doué, Bradley Barcola. Mais la bataille de l'applaudimètre, elle est remportée par le numéro 10. Puis vient le moment tant attendu. Sur une chanson d'Edith Piaf, le capitaine Marquinhos et le président Nasser El Khelaifi apportent ensemble le trophée de la Ligue des Champions. Sur le podium, c'est l'effervescence. En tribune, la folie.
Bonsoir.
Pendant 5 minutes, impossible pour Nasser de placer 2 mots.
Bonsoir, bonsoir.
Sans cesse coupé par la clameur des supporters et des joueurs. Marquinhos aussi est joyeusement chahuté.
La deuxième, elle est incroyable.
Projeté en l'air par ses coéquipiers avant qu'enfin lui-même ne soulève le trophée sur un titre tout trouvé des Daft Punk. One More Time, encore une fois, comme pour nourrir les espoirs d'une passe de 3 l'année prochaine.
Et entre deux célébrations, les joueurs du Paris Saint-Germain ont fait une pause protocolaire reçue à l'Élysée, félicité par Emmanuel Macron, qui a largement dénoncé les violences qui ont émaillé la fête à Paris et dans plus de 70 villes en France.
Malheureusement, on a vu, et je veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça, des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées face à ce qui est inqualifiable. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol.
Et le bilan ce matin, c'est plus de 780 personnes interpellées dans la nuit de samedi à dimanche. Parmi eux, 457 ont été placés en garde à vue. Pierre Bazin, service police-justice RMC, nous rejoint. On va se pencher, Pierre, sur le profil de ces gardés à vue. Dans la majorité des cas, ce sont des hommes.
Oui, à Paris, en tout cas, sur les 312 personnes actuellement en garde à vue, il y a seulement 10 femmes. Tous ou presque sont des hommes originaires de Paris ou de la région parisienne. Un constat similaire pour les 31 mineurs placés en garde à vue le soir du match. Ce sont exclusivement des garçons qui résident principalement en Île-de-France. Le plus jeune étant âgé de 14 ans. Parmi tous ces mineurs, le parquet de Paris indique qu'un peu moins d'entre eux font l'objet, de la moitié d'entre eux font l'objet d'un avertissement pénal ou devront faire un stage. Pour faire face à cet afflux global d'interpellations, le parquet a mobilisé dès samedi soir 14 magistrats. C'est plus que ce qui était prévu initialement. Et puisqu'une grande partie des personnes actuellement entendues par les policiers vont faire l'objet de poursuites pénales classiques, le tribunal judiciaire de Paris prévoit d'augmenter le nombre d'audiences de comparution immédiate.
Et les précisions ce matin de Pierre Bazin, service police-justice RMC.
Et ne manquez pas, à 8h30, mon invité ce sera Jordan Bardella, le président du Rassemblement National dans le face-à-face. Et je vous attends, vous, au 32-16 ou sur le WhatsApp de l'émission. Appelez-nous pour réagir effectivement à ces violences et témoigner si vous en avez vu également. Je vous attends.
Il est 7h05, vous écoutez RMC. Plus de 400 personnes réunies hier à Florence dans le Gers pour tenter de retrouver trace de Liana, jeune adolescente de 11 ans emportée, disparue depuis vendredi dernier. La dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était dans le véhicule d'un homme, père de sa meilleure amie. Il a été placé en garde à vue. D'importants moyens restent mobilisés pour tenter de la retrouver. Protéger les enfants contre les violences sexuelles, notamment dans les établissements scolaires. Objectif de cette proposition de loi post-Betaram qui débarque à l'Assemblée nationale ce lundi, coécrit par un député macroniste et un insoumis. Le texte prévoit notamment la reconnaissance d'une journée d'hommage pour les victimes, l'allongement des délais de prescription ou encore la fin du secret de la confession. L'Église, Louis Salé, s'y oppose et exprime dans un communiqué sa grande préoccupation.
Le secret de la confession avait déjà suscité un vif débat en 2021 lorsque la commission Sauvé avait révélé l'ampleur des abus sexuels au sein de l'Église. Mais la position des évêques reste inchangée. Ce secret doit être protégé au même titre que d'autres secrets professionnels qui concernent par exemple les avocats et les médecins. Monseigneur Vincent Jordy est vice-président de la Conférence des évêques de France.
Il faut que dans une société de la transparence, il puisse aussi y avoir des lieux où des personnes sachent qu'elles puissent être écoutées en toute confiance et en toute confidentialité.
Le secret médical, lui, peut être levé si des faits de violence sur mineurs sont constatés. C'est même obligatoire en cas de danger imminent. Tandis qu'aux yeux de l'Église, le secret de la confession reste absolu, que ce soit avec un agresseur ou une victime.
Mais un prêtre entendant des choses dont il estime qu'il serait important qu'elles soient portées à la connaissance, par exemple, des autorités publiques, peut très bien dire à la personne « J'ai besoin de parler avec vous et de vous écouter en dehors de la confession pour recueillir ce que vous me dites » et pouvoir faire un signalement, par exemple.
Et pour protéger ce secret de la confession, l'Église invoque aussi la liberté de culte.
Et on en débattra tout à l'heure à 7h50, ne manquez pas, comme tous les lundis, la voix de droite. Ce matin, c'est Louis Sarkozy, donc. Et pour lui, eh bien, les prêtres sont des citoyens comme les autres, confession ou pas. Ils doivent dénoncer les faits dont ils ont connaissance. N'hésitez pas, vous aussi, à réagir au 32-16.
Le coup d'envoi de la grand-messe des investisseurs étrangers en France ce lundi, le salon Choose France, 9e édition, 200 PDG du monde entier réunis au château de Versailles, prêt à investir dans le pays 40 milliards d'euros l'an dernier. C'était un record battu cette année grâce à SoftBank, spécialiste dans la nouvelle technologie. Le géant japonais Sonia Gobry annonce 75 milliards d'investissements.
C'est l'annonce la plus spectaculaire de ce sommet Choose France. SoftBank veut développer les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Près des deux tiers de cet investissement XXL seront consacrés d'ici à 2031 à la construction de data centers, ces immenses centres où sont stockées nos données numériques. Ils seront implantés dans les Hauts-de-France, près d'Amiens, de Valenciennes et de Dunkerque. Des installations très gourmandes en électricité et c'est justement là que la France marque des points. Elle en produit de manière abondante et pour le président de SoftBank, ça a été absolument décisif. Le géant japonais a arrêté son choix au moment de la visite d'Emmanuel Macron à Tokyo en avril dernier. Emmanuel Macron qui veut faire de la France un des leaders mondiaux de l'IA, un enjeu économique mais aussi politique à un an de la fin de son quinquennat.
Un nouveau pétrolier russe a raisonné par la France hier dans l'Atlantique. Précision ce matin d'Emmanuel Macron, c'est la quatrième interception de ce genre, dit le chef de l'État. De notre côté, la guerre au Moyen-Orient et la paix qui semble s'éloigner avec l'Iran qui dit avoir ciblé une base utilisée par les États-Unis en représailles aux frappes américaines menées ce week-end. De l'autre, le Liban au cœur de préoccupations internationales et de la France notamment qui a demandé une réunion d'urgence ce lundi à l'ONU après que Benjamin Netanyahou a appelé à poursuivre son offensive contre le Hezbollah dans le sud Liban. Elle porte les derniers espoirs français à Roland-Garros. Diane Paris engagée ce lundi en huitième de finale du tournoi parisien qui va fêter les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils sont attendus porte d'Auteuil pour présenter le trophée de la Ligue des Champions aujourd'hui.
Et justement, écoutez.
Après tant d'années, des galères, des combats, on porte à Paris et j'ai...
Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe pour la deuxième année consécutive. Il y a eu certes les violences, on en parlait ce matin, mais il y a d'abord eu la légende. Et vous venez nous en parler, Jean-Louis Tour, bonjour.
Bonjour Apolline.
Rédacteur
bonjour
en chef évidemment football sur RMC. Vous les avez suivis depuis 48 heures les joueurs. Vous étiez en Hongrie pour RMC, vous avez ensuite suivi la présentation du trophée hier au Parc des Princes. Le PSG est définitivement entré dans la légende. Voilà votre parti pris, vous nous le dites dans un instant. Et vous aussi, on vous attend au 32-16, venez de nous le dire, 7h09.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC.
B A R C.
Le Paris Saint-Germain triomphe une nouvelle fois en Ligue des Champions. Jean-Louis Tour, rédacteur en chef football RMC. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Apolline.
Vous avez quasiment passé ces 48 dernières heures, vraiment minute par minute après avec les joueurs du PSG, de Budapest où avait lieu la finale, jusqu'au Parc des Princes où ils nous ont présenté leur trophée hier. Deuxième victoire consécutive pour le PSG. On le disait ce matin, on parle de la joie et on parle des violences, mais d'abord de la joie, d'abord de cette légende. Pour vous, ça y est, la légende est écrite.
Oui, c'est le slogan qui est revenu le plus ces dernières heures. Une fois c'est historique, deux fois c'est légendaire. Alors ça venait des supporters du PSG à la base, ça a été repris par les joueurs également hier tout au long de la journée lors des célébrations. Et c'est vrai que dans l'histoire du foot, dans l'histoire de la Ligue des Champions, cette compétition qui existe depuis 56, il y a des équipes qui ont gagné une fois comme ça en one shot la Ligue des Champions, mais des équipes qui en gagnent deux de suite, bah tout de suite ça met le PSG dans la classe des Real Madrid, Liverpool, Milan AC, tous ces grands clubs de l'histoire du foot. Alors, je vous parle même pas de trois fois de suite. Là, c'est encore plus légendaire. Faudra trouver un autre superlatif.
Oui, mais on peut le faire, non?
Ah bah c'est possible, bien sûr, bien sûr. Ah bah après la saison qu'on a vue, où le PSG a réussi à résister à toutes les difficultés de cette saison, qui était encore plus importante que l'année dernière, c'est-à-dire une préparation tronquée, peu de jours de vacances avec le mondial des clubs, des blessés au cours du début de saison. Et malgré tout ça, le PSG a su gérer les temps de jeu des uns et des autres et arriver frais dans les matchs qui comptent. Et le parcours n'en est que rehaussé. Ce parcours contre des équipes qui en plus ont progressé par rapport à l'année précédente, ben on sent qu'il y a eu plus d'embûches, mais que les Parisiens sont parvenus à s'en défaire. Donc tout est possible pour la saison prochaine de refaire la même chose. Maintenant ils ont la recette, ils ont trouvé la recette pour gagner et ils ont trouvé la recette pour gagner de nouveau l'année suivante avec un effectif qui en plus est très jeune, 24 ans de moyenne d'âge. Et ben ça veut dire que tous ces joueurs là, les 11 titulaires, il n'y a pas de raison qu'ils soient pas là la saison prochaine et donc d'être performants pour aller chercher cette troisième étoile.
Ça veut dire effectivement que les perspectives, l'horizon est dégagé. Alors une finale quand même beaucoup plus fermée que l'an dernier, hein. L'an dernier on se rappelle quand même que c'était 5-0 contre l'Inter Milan. On a vraiment l'impression que jusqu'au bout du bout c'était quand même sur un fil, même si la solidité de l'équipe est totale.
Oui, oui, bien sûr. Solidité, confiance en cette équipe, ça s'est ressenti tout au long du parcours en Ligue des Champions et même sur cette finale, alors que c'était difficile. Effectivement, cette équipe d'Arsenal, c'était une équipe qui était complètement à l'opposé de ce qu'on a pu voir, une équipe qui refusait le jeu et les Parisiens ont eu du mal à se procurer des occasions. Mais finalement, le plaisir, il est venu dans l'attente aussi pour les supporters parisiens qui comparent forcément les émotions avec la finale de l'année dernière. Bah, au moins, ils sauront que celle-là, il y a eu souffrance jusqu'au bout, il y a eu incertitude. Mais ça provoque une délivrance avec des émotions décuplées, c'est une certitude.
Avec désormais quelque chose qui dépasse le club, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que, d'ailleurs, quand on regardait des images, même des Français qui étaient à l'étranger, parisiens ou pas parisiens, tout le monde était derrière l'équipe. Enfin, tout le monde. Il y a toujours un village irréductible, je dirais, du côté des Bouches-du-Rhône, peut-être. Mais enfin, globalement, on a l'impression quand même que il y avait une fierté presque nationale.
Oui, alors ça dans le foot c'est toujours un peu particulier, en tout cas dans le foot d'aujourd'hui, je trouve d'observer ça, parce que les clivages même entre supporters sont de plus en plus importants, et autant dans les années 70 avec Saint-Etienne ou avec Marseille en 90, bah on savait que toute la France était derrière le représentant français qui allait le plus loin possible. Là, ce phénomène aujourd'hui en 2026, il existe un peu moins, il existait un peu moins parce qu'effectivement la tendance est en train peut-être de s'inverser, même si je pense que même des supporters d'autres villes, pas qu'à Marseille, garderont toujours leur club avant le PSG. Mais c'est vrai que tous les supporters de foot neutres, je dirais, eux, ils peuvent se prendre d'affection pour le PSG parce que cette équipe dégage des valeurs de générosité, de don de soi qui plaisent à tous les amateurs de foot.
Mais justement, quand vous dites, Jean-Louis, chacun des joueurs, il est là avec cette générosité, avec ce don de soi, avec cette gratitude aussi qui a été exprimée hier soir. Mais est-ce qu'on n'aurait pas attendu d'eux qu'à un moment, ils s'expriment sur les violences de manière plus franche en disant « pas en notre nom, ça n'a rien à voir avec nous, on condamne ». Ça, on l'a pas entendu. Est-ce que ça n'a pas manqué ?
Oui, bah, si vous voulez, on peut considérer ça.
Je l'aurais
voulu. Non, mais ça peut s'entendre. Après, on peut aussi se dire que eux, ils sont peut-être à ce moment-là, en tout cas, déconnectés, parce que ils sont dans leur célébration, dans l'émotion, dans la fête, dans le peu d'heures de sommeil. Et puis ils se disent, nous, notre rôle, c'est de jouer au foot. Notre rôle. Après, on reproche aux footballeurs très souvent de prendre position, d'aller au-delà de leur rôle de footballeur.
Non, mais là, on leur demande pas de parler de la politique. On leur demande
de dire,
un match derrière, il y a de la casse. On les a vus d'ailleurs applaudir.
Ils ont laissé leur président le faire. Nasser Al-Khelaifi l'a fait. Il a pris la parole sur les violences. Bah oui. Bon après, ils sont joueurs de foot. Mais bien sûr qu'ils condamnent ces violences. Mais effectivement, ils auraient pu le dire.
Moi, je trouve honnêtement que ça leur aurait pas coûté grand chose. Ça n'aurait rien enlevé à la magie et à la puissance de leur victoire. Mais en termes même d'image, de modèle pour les jeunes, le fait de condamner aurait eu quand même un écho assez remarquable, et je trouve que ça a manqué. Vous savez quoi, on va donner tout de suite la parole aussi à Nicolas qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Nicolas.
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe.
Vous étiez Porte de Saint-Cloud, c'est ça? Vous êtes chauffeur-livreur?
Exactement, tout à fait. J'étais Porte de Saint-Cloud samedi soir avec des gars de Lille qu'on a rencontrés dans un petit parc, là, on regardait le match.
Ouais.
Et avec une enceinte et tout, donc on était posés entre adultes, tout ça, et on a vu des gamins là qu'on passait toute la soirée à pas regarder le match, à tirer au mortier sur les CRS. On s'est fait gazer, on a été voir les CRS, on leur a dit non, on n'a rien à voir, ils ont dit on cède, tout à l'heure vous êtes là. Mais il dit il y a les petits cons qui tirent de partout dans le parc, on n'a pas le choix, quoi. Ils n'en ont rien à...
Comment vous l'avez vécu, ça, vous?
Bah, ils sont pas venus pour voir le match. Faut faire la distinction entre les gens qui sont venus supporters ou gens contents de soutenir une équipe française. Mais faut faire la distinction entre les gens qui étaient là pour fêter un événement positif et ceux, les opportunistes, qui sont venus foutre la merde, clairement. Et c'était flagrant.
Ils sont venus que pour ça, pour vous. C'est ça que vous avez observé depuis...
Oui. Ils étaient à 5 mètres de nous, ils tiraient des mortiers, ils regardaient pas le match. Hein. Pendant que nous, on regardait le match, ils regardaient pas, ils couraient partout. Ils allaient d'un côté, ils repartaient de l'autre, ils revenaient, ils tiraient aux mortiers là-bas. Et c'était que ce qu'on voyait. Parce qu'on était côté petit parc. Après, il y avait dans les rues aussi, où ça devait être pareil, de toute façon.
Vous avez réussi à repartir sans trop de complications?
Ouais, ça a été tranquille. Après, on a réussi, et c'est là la différence. Après, on a suivi un cortège quand le PSG a gagné. On est parti dans les rues, direction Trocadéro. Et le problème, c'est que ça tirait des mortiers en l'air, donc très festif, bonne enfance. Le problème, c'est que les filles qui font plus de distinction après. Donc, ils ont gazé tout le monde. Ça s'est éparpillé partout. Alors que dans ce cortège-là, il n'y avait rien. Franchement,
comme
il y avait
vous disiez,
rien.
Quand vous vous retrouvez effectivement à un moment à vous prendre du gaz lacrymo, alors que, comme vous disiez, vous n'aviez rien à voir avec ça. Merci, Nicolas. Jean-Louis,
Apolline, juste un mot quand même. Marquinhos a eu un mot quand même pour les supporters, hein, notamment sur le Champ de Mars, en disant soyez sages dans vos célébrations, plus un message de prévention. Il n'y a pas eu, si vous voulez, condamnation de la veille, mais quand même, il y a eu un message de prévention. Ils sont pas si déconnectés que ça quand même.
Merci beaucoup Jean-Louis pour cette précision. Merci Jean-Louis d'avoir suivi et de continuer à suivre minute par minute et nous avoir fait vivre aussi cette légende sur RMC. Vous n'hésitez pas, comme Nicolas, vous nous appelez au 32-16 pour réagir. Notez également qu'à 8h30 dans le face-à-face, mon invité, ce sera Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Il est 7h21, l'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le drapeau israélien flotte sur une forteresse, la forteresse de Beaufort au Liban. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, d'une citadelle construite au Moyen-Âge par des chevaliers venus d'Europe, alors en pleine croisade. Un lieu chargé d'histoire, Apolline, qui a toujours fait l'objet de toutes les convoitises.
Vous nous le dites dans un instant. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, on remonte le temps, comme chaque matin sur RMC avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'armée israélienne a déclaré avoir, je cite, « capturé le château de Beaufort ». C'est une forteresse médiévale qui est au sud du Liban.
Oui, et c'est tout un symbole. Le château de Beaufort, c'est un point clé pour dominer militairement cette région très montagneuse. C'est à 5 km à vol d'oiseau de la frontière israélienne. Cette prise de guerre permet à l'armée israélienne d'avoir une base solide en territoire libanais. Mais le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que cette construction médiévale, Apolline, eh bien tout le monde se la dispute depuis plus de 900 ans.
À l'origine, qui a construit ce château ?
Alors, d'abord, il faut un peu de contexte. Nous sommes au XIIe siècle, l'époque où des chevaliers chrétiens et européens multiplient les croisades en Orient. Ces chevaliers, on les appelait les croisés, hein, normal, des croisés qui faisaient la croisade. Leur but, c'était reconquérir la Terre Sainte, donc la région du Christ, qui était en territoire musulman. Le point névralgique, c'était bien sûr Jérusalem, mais toute la zone faisait l'objet de combats, dont évidemment cette forteresse, qui était à l'origine une citadelle arabe. Les croisés s'en emparent en 1139, et c'est sur ce même site qu'ils vont construire un château fort, le château de Beaufort, donc le château que l'armée israélienne a repris hier.
Combien de temps vont rester ces chevaliers venus d'Europe ?
Plus d'un siècle, les croisés vont même créer un royaume chrétien en terre arabe qui s'appelait le royaume de Jérusalem. Beaufort en faisait partie. Alors le château va ensuite être repris par les arabes, puis repris par les croisés, et ainsi de suite, jusqu'en 1268, où un sultan très puissant, qui s'appelait Baybars, règle le problème pour de bon. Il assiège la citadelle et il chasse définitivement les croisés.
Et l'histoire ne s'arrête pas là.
Et non, puisque le château de Beaufort revient dans l'actualité, mais alors là, des siècles plus tard, puisque nous sommes dans les années 70, à l'époque, Israël et les pays arabes étaient en pleine confrontation, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, transforme le château en base militaire contre Israël. Sa position stratégique leur permet d'envoyer des missiles directement sur l'État hébreu. Et à partir de là, conquérir Beaufort devient une des priorités de l'armée israélienne.
Et la forteresse va à nouveau changer de main ?
Eh oui, ça recommence en 1982. L'armée israélienne parvient à ses fins. Elle lance un raid de grande ampleur avec des hélicoptères, beaucoup de soldats sur la citadelle de Beaufort. Une opération commando couronnée de succès. L'armée israélienne va occuper ce château pendant presque 20 ans, jusqu'à son départ du Liban en l'an 2000. Et depuis 2024, le château bénéficie d'un statut protégé par le droit international, celui de protection renforcée. En gros, ça veut dire que c'est un bien culturel qui doit être très protégé en cas de conflit. Bref, le château de Beaufort, c'est le symbole d'une région perpétuellement en guerre depuis 1000 ans. Et pour l'armée israélienne, cette conquête réalisée hier est une avancée militaire majeure.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h25, Arnaud Demanche nous rejoint.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
À 8h30 tout à l'heure dans le face-à-face, mon invité c'est le président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
Oui, et pourquoi ? Eh bien, parce que, et ça Mathieu Belliard me l'a signalé par WhatsApp, par SMS, par téléphone, par Snapchat, par mail, il me l'a dit encore 9 fois ce matin quand je suis arrivé, parce que Paris est champion d'Europe ! Et après il a retiré sa chemise et il a fait des moulinets avec, et après il a retiré son pantalon et je lui ai dit stop, et Mathieu a tout de suite fêté ça sur les Champs-Élysées. Alors, il n'a pas cassé l'exposition de Yann Arthus-Bertrand comme la dernière fois. Ça, faut le souligner, faut dire quand c'était bien. Il était gentiment en train de jeter des Vélib dans le canal Saint-Martin.
Oh, non.
Par contre, ses petits camarades ont mis un beau bordel sur les Champs-Élysées. Parce qu'aux Champs-Élysées, en cas de victoire, en cas de défaite,
tous les casseurs font la fête, les abribus sont tous brûlés aux Champs-Élysées.
Alors, très bien.
Alors, on va parler du match deux secondes. Juste, le PSG jouait donc contre Arsenal. Il y a eu prolongation, très belle séance de tir au but, notamment celui de Eberechi Eze. J'ai adoré. Il a posé le ballon, il a pris son élan. Il s'est arrêté, il a balancé un vieux coup de tatane démotivé, comme quand on shoot dans une canette, genre... Et hop, directement en tribune, et on a gagné. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour savoir si le Qatar avait déposé une grosse palette de bifetons dans sa chambre. Et ensuite, reprolongation, mais cette fois avec l'équipe des CRS contre l'équipe des casseurs.
Voilà.
Ça a duré un peu plus longtemps. Le ministre de l'Intérieur avait promis un dispositif exceptionnel. Les casseurs, ils ont répondu « Super, merci pour l'invite, on arrive !» Et on a suivi ça dans l'intégral foot.
Et Jean-Louis, quel est le score, Jean-Louis ?
Eh bien, après une heure de jeu, le score est de 343 gardes à vue, 5 poteaux arrachés, 4 scooters brûlés.
Oh, c'est formidable !
Et Jordan Bardella a tout de suite célébré la victoire du PSG. Dès la fin du match, il a fait « Yes, on est les champions, on va y avoir des casseurs, on va monter un peu plus dans les sondages. » Et 1, et 2, et 3 points de plus. Et puis, il est allé sur Twitter pour dénoncer les débordements. Déjà, faut reconnaître qu'il n'est pas habitué à autant de violence à Paris, Bardella. Déjà parce qu'on quand on enfreint la loi au RN, on fait ça à Bruxelles. Hein, on laisse Paris tranquille.
Voilà.
Et puis, on rappelle que sa copine, la princesse de Bourbon, des deux Siciles, des trois Suisses et de Rocky IV, au maximum de sa crise d'ado, ses plus grosses bêtises, oui. C'était...
On s'était caché derrière des arbres à chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient. On faisait boum. Alors faisait peur.
Bah oui, elle faisait peur. Alors évidemment, même si elle a tué quelques petits vieux en leur causant une crise cardiaque, ça fait quand même plus sage que de cramer des abribus. Mais rendez-vous avec Jordan Bardella. On évoquera tout ça un peu plus en longueur à 8h30.
À tout à l'heure, Arnaud, qu'on retrouve à 8h15. Il est 7h28 pour l'heure et on se retrouve dans un instant. La météo, le journal de 7h30. Et puis juste après, le dispositif de sécurité du ministère de l'Intérieur était-il suffisant? On en parle avec le représentant des commissaires de police. Il sera mon invité. À tout de suite. 7h30, une température normale, Géraldine.
Oui, ça fait du bien, hein. Ça y est, on respire, on dort un peu mieux avec des températures qui restent toujours un petit peu au-dessus des normales de saison quand même. En tout cas, aujourd'hui, on va avoir une journée calme, plutôt bien ensoleillée, un petit peu de pluie sur la pointe bretonne cet après-midi, quelques orages vers les Pyrénées et les Alpes du Sud et c'est tout. Et donc, ces températures quand même agréables cet après-midi. On aura 19 degrés à Brest, 24 à Lille, 26 à Paris, 27 à Bordeaux, Toulouse, 28 à Lyon, 31 à Marseille. Ça va baisser encore un petit peu dans les prochains jours avec attention demain des averses orageuses qui vont traverser tout le pays.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
9h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h30 bien sûr, 7h31 même précisément, le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Les recherches ont repris ce matin dans le Gers. Les gendarmes tentent de retrouver Liana, 11 ans, disparue vendredi. Le père de sa meilleure amie est en garde à vue et ses explications ne convainquent pas les enquêteurs. Le ras-le-bol et la fermeté. Emmanuel Macron réagit aux débordements qui ont émaillé la victoire du PSG aux quatre coins de la France. Les comparutions immédiates débutent en début d'après-midi dans toute la France. Et le travail, la recherche, l'éducation. On vous explique quels ministères vont subir les coupes budgétaires liées à la guerre en Iran.
C'est toute une commune du Gers qui s'est lancée à la recherche d'une de ses enfants.
En vain, la battue citoyenne d'hier n'a rien donné à Florence. 400 personnes en quête de traces de Liana, 11 ans, disparue à la sortie de son collège vendredi. Pendant ce temps-là, l'enquête, elle, se concentre sur un homme, Amélie Courté, interpellé et interrogé parce qu'il est, semble-t-il, le dernier à avoir vu la jeune fille.
La dernière fois que Liana a été aperçue, c'était à bord de la voiture de cet homme, venu la prendre à la sortie de son collège, vendredi vers 15h. Un homme qu'elle connaissait, précise sa mère, puisque c'est le père de sa meilleure amie.
Nous, on l'a vu une fois, puisqu'on l'a emmené chez lui pour une soirée pyjama en début d'année scolaire.
Mais après cette soirée, elle a demandé à sa fille de ne plus le voir, évoquant des comportements inadaptés.
Mais bon, bah voilà, Liana, si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture s'il lui aurait proposé de la ramener à la maison.
En garde à vue, le père de 41 ans se défend et déclare qu'il a déposé la collégienne à la piscine de la commune. Des informations jugées incohérentes et imprécises, selon la procureure d'Auch. La famille de Liana se dit vidée, fatiguée, assure qu'elle n'a jamais fugué.
Bien sûr que je suis inquiète. C'est horrible, horrible ce qui se passe. Je rêve que d'une chose, c'est qu'on la retrouve. Et voilà.
Hier, plusieurs centaines de volontaires ont participé à une battue pour retrouver la jeune fille de 11 ans, sans succès.
Et la garde à vue de ce suspect doit normalement se terminer aujourd'hui. Nous serons intraitables. C'est la réaction d'Emmanuel Macron au débordement en marge de la victoire du PSG. Réaction devant les joueurs venus présenter la deuxième Ligue des Champions à l'Elysée hier au moment où la machine judiciaire se met en marche. Des comparutions immédiates vont débuter en début d'après-midi. 457 placés en garde à vue dans toute la France parce que le bilan dépasse largement les frontières de la région parisienne. Philippine Boulet, le ministère de l'Intérieur, dénombre au total 71 villes touchées en France.
Comme à Montluçon, Rouen, Saint-Étienne ou encore Montpellier. Selon le ministre de l'Intérieur, dans une quinzaine de villes, à Clermont-Ferrand par exemple, les scènes de violence se sont accompagnées de pillages, principalement dans des magasins de vêtements ou d'articles de sport. À Pau, c'est la bibliothèque municipale qui a été vandalisée. Une dizaine de personnes a forcé les portes d'entrée et s'en est pris au mobilier. À Niort, 5 personnes ont été interpellées après des tirs de mortier, des dégradations et le pillage d'une boutique.
On a eu un commerce de basket qui a été cambriolé, ce qui est plus que regrettable. Ça n'est jamais arrivé. C'est extrêmement choquant.
Le maire Jérôme Baloge s'interroge sur la présence de nombreux mineurs samedi soir.
Tous n'étaient pas à commettre des actes. Mais que font des enfants, parce que ce sont des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, seuls, non accompagnés dans les rues.
À quelques semaines de la Coupe du Monde de football, l'élu compte mettre en place avec la préfecture des actions de prévention pour responsabiliser les parents.
Ça, c'était le soir du match. Journée bien plus calme hier. Pas d'incident majeur lors de ces célébrations dans la capitale. Quelques individus ont tout de même tenté de forcer l'entrée du Parc des Princes où le club avait réuni ses supporters dans la soirée. La communion, elle, avait commencé dès l'après-midi sur le Champ de Mars. Des dizaines de milliers de personnes au pied de la Tour Eiffel. Un moment d'histoire et de ferveur où Célestin Bougère s'est rendu pour RMC.
Debout, serrés les uns contre les autres pendant de longues heures avant la délivrance.
Merci d'accueillir.
600 mètres de tapis rouge et bleu, une foule déchaînée de chaque côté et au bout une scène avec la tour Eiffel en fond. Les joueurs et la coupe aux grandes oreilles se rapprochent de nous.
Il y a les joueurs qui arrivent là, ça fait quoi de les voir à quelques mètres?
C'est incroyable, c'est la première fois. Vas-y, je suis comme un ouf.
Mathéo a vu passer sous ses yeux à quelques centimètres ses héros.
J'ai des crampes, j'ai pas vu. Je regrette pas, c'est le meilleur truc qu'on peut vivre, c'est incroyable.
C'est un des plus beaux moments de ta vie peut-être?
Pour l'instant oui.
Sur scène, un à un, les joueurs sont acclamés avec un chouchou. Mais c'est le capitaine Marquinhos qui fait le show. De bonheur suspendu, Uriel a du mal à réaliser.
Le fait de les voir comme ça face à vous et tout, c'est dingue en fait, c'est incroyable en fait.
Ceux qui y étaient en garderont un souvenir indélébile.
Moi dans ma tête c'était le feu moi, c'est une fois dans la vie. Mais...
Une fois dans une vie ou pas, tous se donnent rendez-vous dès l'année prochaine pour aller chercher le triplé.
Et suite du périple de ce trophée de la Ligue des Champions qui doit être présenté aujourd'hui sur les cours de Roland-Garros. On l'a appris il y a quelques minutes, la marine française a arraisonné hier un nouveau pétrolier en provenance de Russie, navire suspecté de contourner les sanctions internationales. Ça se passe dans l'Atlantique, en haute mer. C'est la quatrième interception de ce type opérée par la France. On y reviendra en détail dans le journal de 8h. Regain de tension en Iran ce matin. Les États-Unis en viennent d'annoncer avoir frappé des radars et des sites de contrôle de drones. Réponse des gardiens de la Révolution qui disent avoir visé, eux, une base utilisée par l'armée américaine. C'est justement pour faire face aux conséquences de la guerre que le gouvernement prépare des coupes budgétaires. Près de 950 millions d'euros d'annulation de crédit. On avait le chiffre. Avec les deux décrets qui sont dans les tuyaux, on a maintenant les ministères les plus mis à contribution, Romain Cluzel.
Le ministère du Travail va être l'un des plus sollicités pour réduire les dépenses de l'État. 122 millions d'euros de crédits vont être annulés et cela pourrait concerner les aides à l'apprentissage, déjà largement en baisse dans le budget d'origine de 2026. Le ministère tente de dédramatiser et précise que cette nouvelle baisse ne représente qu'1% des sommes dédiées à l'apprentissage. La recherche et l'éducation supérieure vont aussi participer à l'effort et perdent 139 millions d'euros, dont près de la moitié pour des programmes de recherche scientifique et technologiques pluridisciplinaires. En revanche, deux ministères sont, eux, assurés de ne pas subir de coups de rabot. Les armées, dont le budget est en augmentation ces dernières années, et le ministère de la Justice.
Et puis un mot de tennis, la dernière tricolore en lice à Roland-Garros. Sur les courts, aujourd'hui, Diane Paris affronte en huitième de finale Maya Chwalinska, une Polonaise 114e mondiale. Ce sera à suivre sur la radio digitale RMC 100% terre battue, tout comme la rencontre du jour. du soir pour le coup. La numéro 1 mondiale Sabalenka contre la japonaise Naomi Osaka.
Et puis le quintet, c'est à Vichy aujourd'hui.
Départ 13h55, voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 13, Indian Pacific. Son outsider, le numéro 3, Iris Intense, le 13 et le 3.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans la nuit après la victoire du PSG en Ligue des Champions, nuit de violence à Paris et dans plusieurs villes de France, avec quelques blessés, avec des dégradations, des pillages, des incendies, des abribus ou des vitrines de magasins fracassées et des policiers blessés. Bonjour Frédéric Lauze.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Vous représentez les commissaires de police. Le dispositif mis en place, on nous avait promis un dispositif XXL. Est-ce qu'il a été à la hauteur? Comment est-ce possible qu'il n'ait pas empêché cette situation? Vous nous expliquez dans un instant que malgré effectivement toutes ces préparations, la fête a bel et bien débordé. Qu'aurait-il fallu faire? Vous nous le dites aussi dans un instant. Et vous qui nous écoutez, vous nous appelez au 3216, 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bonjour Frédéric Lauze.
Bonjour.
Vous représentez les commissaires de la police nationale. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires. Il y a eu 22 000 policiers et gendarmes, dont 8 000 rien qu'à Paris et sa banlieue. Un dispositif hors norme, XXL. Vous pouvez mettre tous les superlatifs que vous voulez. Et pourtant, ces scènes de casse et de violence. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Écoutez, le problème n'est pas policier. Moi, j'en suis convaincu. On peut toujours dire toujours plus de moyens. Hein. C'est un petit peu la pensée paresseuse. Le dispositif qui a été mis en place était pour moi dimensionné. Il était basé sur une idée qui était la réactivité, la mobilité des forces de l'ordre. Mais nous ne sommes pas sur une manifestation déclarée, encadrée, qui d'ailleurs bien souvent dégénère en France. Le problème, c'est un problème culturel. De façon festive, on ne sait plus célébrer en France une victoire sportive, notamment dans le monde du football, sans que ce soit un prétexte, un exutoire de casse. Alors on sait le faire à Lens, hein, par exemple, hein. Tout le monde a pu constater, et il y a des enseignements à tirer.
On avait d'ailleurs une auditrice ce matin avec vous, Mathieu, qui effectivement disait, une auditrice de Lens, qui disait sa fierté à ce qu'il y ait eu une fête énorme. Elle dit pourtant, en plus, il y a eu beaucoup de boissons.
Il y avait des bars, de l'alcool.
Mais il y avait les enfants, il y avait les familles, et il n'y avait aucune inquiétude.
On sait faire la fête. De la même façon, Bordeaux-Bègles, vous avez vu. Pareil, on a un public, là on a un souci. Le football est le prétexte à un exutoire malsain. Donc le problème n'est pas policier. On peut toujours dire oui mais il aurait fallu ci, il aurait fallu ça. En amont, le problème est culturel, c'est le prétexte à des débordements, il est politique. Et puis en aval, quelles vont être les sanctions? Quelles ont été les sanctions pour les dernières violences urbaines? La réponse, c'est rien du tout. Les mécanismes juridiques.
Rien du tout. Vous estimez rien du tout?
Rien du tout.
Moi, j'ai évidemment regardé ce qui s'était joué en 2025. Alors, il y avait un peu moins de personnes qui avaient été arrêtées, un tout petit peu moins de garde à vue, mais proportionnellement, il y a eu des peines de prison prononcées. Bon. Alors,
moi, je vais vous répondre. Ce n'est pas du tout à la hauteur, parce que la seule question qu'il faut se payer, c'est qui casse? Vous voyez, on vous parle de dettes, on vous parle de... mais qui paye de ras-le-bol des contribuables? Qui paye? Les auditeurs d'RMC qui sont peut-être en train de travailler, qui sont sur la route en train de s'y rendre, c'est inacceptable, c'est injuste. Si c'est un de vos auditeurs est en train de brûler un feu rouge, malheureusement, ou dépasse de 10 ou 20 kilomètres la vitesse autorisée, croyez-moi, on va chercher sa responsabilité financière et rapidement. Et c'est pas le cas pour les casseurs. Et c'est pour ça que ça va continuer. Le sentiment d'impunité va... Voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Je vous interroge dans un instant sur comment est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour qu'ils payent, pour que ceux qui cassent payent. Et je sais que vous avez des propositions, mais je voudrais d'abord donner la parole à Thierry, parce que précisément Thierry nous appelle là-dessus. Thierry qui nous appelle de Charente, qui est gestionnaire d'un site de e-commerce. Quel regard vous portez là-dessus, Thierry, justement?
Bonjour Apolline, bonjour votre invité. Alors, je ne vais pas dire grand-chose de plus que ce qu'a dit votre invité, parce qu'il a pris tout ce que j'allais à peu près dire. Il a parlé de l'UBB, qui a remporté le titre européen. Mmh. Ça s'est fait dans la joie et très festif. Au rugby, on ne boit pas que du sirop de grenadine. Donc il y a aussi de l'alcool. Le 27 juin, il y aura la finale du top 14 au Stade de France. Votre invité, je pense qu'il pourrait être plus précis là-dessus, mais il va pas mettre un dispositif équivalent à celui qu'il y a eu samedi pour Paris, pour le foot. Donc il y a, et à Lens, ils ont su faire la fête. Donc effectivement, il y a un réel souci avec certains clubs de foot. Et vous pourriez mettre 60 000 policiers, le résultat serait le même à la sortie. Enfin, je veux pas m'avancer là-dessus.
Vous avez l'impression, vous, Thierry, que ceux qui cassent ne payent pas?
Mais c'est l'impunité, voilà. Il y a l'impunité. Il y a eu 400 arrestations au garde à vue. Il y aura rien. Il y aura rien derrière. Il y aura rien. Ils vont rentrer chez eux, ils recommenceront. C'est les mêmes qui balancent des pierres sur les policiers quand ils vont dans certains quartiers. C'est toujours la même chose. Toujours. C'est devenu un jeu. Casser du flic, c'est un jeu. C'est un jeu. Ils ont rendez-vous avec les flics, ils sont contents. Ils vont casser du flic.
Ils ont rendez-vous avec les flics en quelque sorte. Thierry, je voudrais justement que Frédéric Loss puisse vous répondre. C'est un jeu, c'est un sentiment d'impunité. Pourtant, donc je le rappelle, en 2025, il y a un an, même cause, mêmes effets et un certain nombre d'arrestations. Alors le ministre de la Justice à l'époque, déjà Gérald Darmanin, disait que les sanctions n'étaient, je cite, plus à la hauteur de la violence que connaissait le pays, mais il y avait eu des peines de condamnation avec quelques peines de prison ferme, parfois de 8 à 12 mois avec mandat de dépôt.
La plupart, la quasi-totalité des peines de prison qui ont été prononcées n'ont pas été exécutées. Ça, c'est la première chose. Vous avez eu 780 interpellations, 500 gardes à vue. Donc, un énorme travail. Et je veux rendre hommage aux policiers qui ont été blessés, les 57 policiers. Au même moment, on sécurisait également au Stade de France, et ça s'est bien passé, le concert d'Aya Nakamura, ça s'est parfaitement bien passé. Et ces événements festifs, il faut le rappeler quand même que la finale n'avait pas lieu à Paris, c'est quand même surréaliste, hein, ont eu lieu, les débordements, les pillages ont eu lieu dans toute la France. On l'a vu également avec les violences urbaines, qui sont une spécificité française, qui paye. Il y a eu, après la mort de Naël et les violences urbaines de 2023, il y a eu près de 800 millions d'euros de dégâts, près d'un milliard. Qui paye? Faites le bilan. Pourquoi la Cour des comptes et l'INSEE ne se sont pas penchés sur cette question? C'est quand même intéressant pour voir qui paye, pas simplement les condamnations pénales, c'est la responsabilité.
Alors comment on fait pour que ceux qui cassent payent?
Ben déjà, il faut faire un vrai bilan. C'est pour ça que moi je suis favorable à ce qu'on établisse le coût de la délinquance. Ça va responsabiliser tout le monde. Il y a un économiste, Jacques Bichot, qui l'avait fait il y a 15 ans. Déjà, il y a 15 ans, il avait affiché ça en disant il y a à peu près 150 milliards d'euros. Aujourd'hui, on serait certainement plus proche des plus de 200, 220 milliards d'euros. Vous imaginez, ça serait un élément de responsabilisation. Que chaque année, la Cour des comptes, l'INSEE, les inspections...
nous disent, voilà combien ça nous a coûté la délinquance.
Coûte, au lieu ce qu'a fait le gouvernement, de proposer il y a un an une taxe casseur subrepticement. On disait, ben maintenant c'est les communes qui vont... On va intégrer dans les assurances des communes une taxe casseur. Mais c'est choquant, c'est-à-dire que les Français, les contribuables, les Français qui ne créent pas de problème, qui respectent les lois de toute origine, vont payer pour une minorité de casseurs, parce que juridiquement, on a décidé que dans notre pays, au nom de l'individualisation des peines, on ne peut pas engager de responsabilité civile pénale collective. Donc on aboutit à une autre injustice de plus en plus grande et à un ras-le-bol, en particulier
alors,
aux auditeurs.
Alors, je vous repose la question, on fait comment? On fait comment? On les tape au portefeuille?
Oui, on les tape au portefeuille, avec par exemple une présomption de responsabilité civile. On les tape au portefeuille pour aller saisir leurs avoirs patrimoniaux, pour aller saisir les revenus sociaux. On inverse, s'il le faut, la charge de la preuve. Et pour ceux qui disent, ben, juridiquement, c'est pas possible, est-ce que cette situation est possible d'avoir des dégâts en permanence? Vous imaginez l'ouvrier, l'employé qui va travailler, qui a eu sa bagnole, qui a été pété, mais il a que ça à faire, qui a été brûlé, quelqu'un qui vient dans un événement festif avec ses enfants, famille. C'est-à-dire, on est un pays, on sait plus rien faire. L'impunité financière encourage l'irresponsabilité financière va encourager l'impunité. Voilà, je vous le prédis. Non seulement ça va continuer, ça va avoir des traductions, etc. Et puis, un dernier mot, regardez PSG. Qu'est-ce qui est fort dans cette équipe de PSG, qu'on soit supporter ou pas? C'est le collectif. C'est l'excellent état d'esprit. Voilà, on a besoin en France de retrouver un « nous ». On a besoin en France de patriotisme, parce qu'on ne casse pas, on casse en tout cas beaucoup moins, lorsqu'on sent, on a un sentiment d'appartenance. C'est aussi ce qui manque en France.
Merci beaucoup Frédéric Loss d'avoir été mon invité ce matin.
Merci à vous.
Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci aussi à Thierry. Il est 7h51, c'est lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Les prêtres doivent-ils dénoncer les crimes sur mineurs qu'ils ont... dont ils ont eu connaissance à travers la confession.
Bien évidemment, en France, c'est l'État qui dirige et c'est pas l'Église. Comme le fonctionnaire, comme l'instituteur, le prêtre est un citoyen, comme les autres.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus, Mathieu.
La saga Toy Story qui compte une nouvelle voix. Alors vous connaissez tous les dessins animés où les jouets prennent vie quand on ne les regarde plus. Le cinquième volet est attendu le 17 juin avec la voix de Bad Bunny, vous l'avez reconnu. Première dans un doublage d'animation pour la star portoricaine qui jouera, je cite, une pizza avec lunettes de soleil. Dans un groupe de jouets oubliés, remplacés qu'ils sont par le smartphone et la tech dans le cœur des enfants.
Et quoi, un vieux monsieur en jouet ?
Quoi ? Elle croit que t'es vieux parce que tu perds tes cheveux, Woody.
Bunny a besoin de
les objets connectés vont-ils supplanter les vieux jouets oubliés ? On parle pas de légumes mais de jouets. C'est l'intrigue de ce Toy Story 5 qui sort dans moins de 3 semaines. Le carton annoncé pour le studio Pixar et sa franchise à succès, Woody, Buzz, Jessie et donc une pizza à lunettes jouée par Bad Bunny.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
La proposition de loi dite Bétarame arrive ce matin à l'Assemblée nationale. Elle est née du scandale de Notre-Dame de Bétarame dans les Pyrénées-Atlantiques. Plus de 200 élèves qui ont dénoncé des violences commises entre 1950 et 2000. Parmi les mesures, il y a la levée du secret de la confession pour les crimes sur mineurs. Ça fait polémique, mais vous y êtes favorable, Louis.
Sans la moindre hésitation. L'Église ici a échoué sur tous les continents et a échoué depuis des décennies. Que ce soit aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne, on recense des centaines de milliers de victimes. En France, rappelons-le, 330 000 victimes, selon la commission Sauvé. Partout, le même réflexe, protéger l'institution et pas les enfants. Trop souvent, trop longtemps, l'Église a couvert les violeurs au lieu de protéger leurs victimes. Alors oui, bien sûr que je suis pour. Le secret de la confession est devenu le secret de l'impunité.
Mais le secret de la confession pour les catholiques, c'est un sacrement. C'est sacré. Est-ce que vraiment l'État doit y toucher ?
Oui, bien sûr. Et ce, d'ailleurs, depuis longtemps. En France, ce n'est pas l'Église qui régit l'État. C'est l'État qui régit l'Église. Et ce, depuis Napoléon, depuis le Concordat, depuis la loi de 1905. La République fixe le cadre. Les cultes s'y plient. C'est ça, la laïcité à la française. Et quand on parle de viol d'enfant, pardonnez-moi, on parle de l'incarnation la plus pure du mal. Il n'y a pas de sacrement qui tienne. Aucun sacrement ne vaut l'innocence d'un enfant. Aucun dogme ne vaut sa joie. Aucune pratique sa santé. Aucune tradition sa protection. La République protège ses enfants par tous les moyens ou elle ne protège rien du tout.
On parle effectivement, et il faut le préciser, parmi les mesures de cette loi, la levée du secret de la confession pour les crimes sur mineurs précisément. Ça reste une situation quand même assez unique. Est-ce que vous pouvez la comparer à autre chose ?
Bah oui, à tout le reste de la société. Un médecin qui découvre qu'un enfant est abusé peut le signaler. La loi a explicitement levé son secret. Pour ça, un instituteur, un éducateur, un fonctionnaire, quiconque a connaissance de violences sur mineurs, a l'obligation légale de le signaler. C'est dans le code pénal. Tout le monde dans ce pays a un devoir d'alerte quand un enfant est en danger. Tout le monde, sauf le prêtre. Comment est-ce qu'on justifie ça en 2026 ?
Vous ne faites pas confiance à l'Église pour traiter ça ?
En rien. Vous comprenez ? En rien. Alors qu'on soit clair, je respecte toutes les croyances. Et tout particulièrement le catholicisme quand même. Il a façonné la France depuis 15 siècles. On ne sort pas de son histoire à coup de loi. C'est une part de nous le catholicisme. C'est une part de moi. Mais les Américains ont une formule qui ici, je trouve, est très utile. Trust but verify. Faites confiance, mais vérifiez. Pendant des siècles, l'Église a fait exactement l'inverse. Elle a demandé qu'on lui fasse confiance. Et elle s'est gardée de vérifier quoi que ce soit. Bétarame en est la dernière coulée. Quand une institution échoue à ce point, on ne lui rend pas les clés, on change la serrure.
Les défenseurs du secret disent « Sans ce secret, plus aucun criminel n'osera se confesser ».
Oui, argument touchant et parfaitement tordu. On nous dit en somme « Laissez le prêtre savoir, Esther, sinon le criminel ne dira plus rien à personne ». Mais le but, pardonnez-moi, n'est pas de soulager l'âme du prédateur. Le but est de protéger ses victimes. Un confesseur qui apprend qu'un enfant est violé et qui rentre chez lui en silence, ça s'appelle un complice. Un supérieur, un collègue, un évêque, un archevêque, un cardinal qui sait, ou pire, qui déplace le coupable dans une autre paroisse, c'est une association de malfaiteurs.
Le problème, c'est que du côté du Vatican, ils disent que tout prêtre qui leverait le secret de la confession serait excommunié. Donc oui. Ils doivent choisir, en fait, désormais, les prêtres.
Mais bien sûr, ils doivent choisir. C'est exactement ce qu'on veut. Et la hiérarchie, pardonnez-moi de le dire, est limpide. Sur le sol français, c'est la loi française qui s'applique, pas le droit canon. Un prêtre est d'abord un citoyen. S'il préfère la fidélité à Rome à la protection d'un enfant, c'est son drame personnel. Mais c'est pas un argument juridique. L'Église a eu 2000 ans pour réformer son rituel. Les enfants violés, eux, n'ont pas 2000 ans pour attendre. Quand l'Église n'a pas su protéger les enfants, c'est à la République de le faire à sa place. Et si pour cela, il faut briser un sacrement vieux de 2000 ans, alors on le brisera. L'enfant, rappelons-le quand même, est infiniment plus sacré que le mystère.
Merci Louis Sarkozy. Voix de droite sur RMC. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Il est 7h58. Dans un instant, la météo et le journal de 8h. À la une du journal, 890 interpellations dans la nuit de samedi à dimanche. C'est le tout dernier chiffre. On vient de l'apprendre. Et c'est 45% de plus que l'an dernier. On y reviendra tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, on est lundi, on est ensemble sur RMC. Merci de nous avoir choisis pour vous réveiller.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, ou plutôt... Plutôt salut tout le monde, comme l'a crié Marquinhos hier lors des célébrations du PSG de la Ligue des Champions au Champ de Mars et au Parc des Princes. On va y revenir dans ce journal, mais le contraste est total avec les plus de 890 interpellations de samedi. C'est le nouveau bilan ce matin. Emmanuel Macron, que vous allez entendre, promet d'être intraitable avec les casseurs. Et puis l'autre information du matin, c'est la France qui annonce l'arraisonnement d'un nouveau pétrolier russe, le quatrième en l'espace seulement de quelques mois.
Emmanuel Macron promet donc d'être, je cite, intraitable avec les casseurs de samedi soir.
Oui, écoutez ce qu'il a dit à propos des violences, c'était hier soir à l'Elysée où il recevait les joueurs du Paris Saint-Germain.
C'est pas le foot ça, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras le bol. Terminé.
Voilà donc ce que dit Emmanuel Macron. Je donne le tout dernier bilan du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il t'a dit il y a quelques minutes, plus de 890 interpellations. Donc, samedi soir, chiffre en hausse de 45% par rapport au premier sacre des Parisiens l'année dernière. Pas qu'à Paris, dans 71 villes au total, partout en France. Donc, 178 blessés parmi les forces de l'ordre, qui étaient pourtant déployés en nombre. Hein, 22 000 policiers et gendarmes dans tout le pays et 8 000 rien qu'à Paris. Pierre Bazin, du service police-justice à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. Il y a de premiers casseurs qui vont passer devant la justice aujourd'hui.
Oui, dès aujourd'hui, plusieurs personnes doivent comparaître en correctionnel au tribunal judiciaire de Paris, majoritairement pour des violences sur des policiers ou des gendarmes, mais aussi parfois pour des vols, des dégradations et des ports d'armes. Parmi les 312 personnes encore en garde à vue, toutes ne seront pas forcément jugées en comparution immédiate, mais la justice s'attend toutefois à un grand nombre de prévenus, bien avant le début de la finale de la Ligue des Champions. Le tribunal judiciaire annonçait d'ailleurs s'être organisé pour augmenter sa capacité de jugement dans les jours suivant le match. Un dispositif identique avait d'ailleurs été mis en place l'année dernière dans la foulée de la première Ligue des Champions remportée par le PSG. En 2025, une très large partie des personnes présentées en comparution immédiate ont été condamnées à de la prison avec sursis ou sanctionnées par des mesures alternatives. Pour rappel, Quentin, la peine encourue pour des violences sur des policiers, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Alors, des festivités qui ont été endeuillées dans la capitale avec la mort d'un jeune de 24 ans. On verra hein, ce que dit tout ça Jordan Bardella du Rassemblement National, invité ce matin d'RMC au micro d'Apolline, ce sera 8h30. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, lui dénonce des violences mises en scène sur les réseaux sociaux. Alors il le disait, c'était hier après-midi, depuis le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, où l'image était belle, il y avait 100 000 personnes pour acclamer les joueurs dans l'après-midi, et donc où Ousmane Dembélé a fait une promesse aux supporters parisiens.
Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le back-to-back. On revient l'année prochaine pour la troisième.
Voilà, les Parisiens qui rêvent désormais d'une troisième Ligue des Champions. Le ton était le même au Parc des Princes dans la soirée devant 47 000 personnes. Ousmane Dembélé et les autres internationaux du Paris Saint-Germain qui rejoindront demain l'équipe de France à Clairefontaine pour préparer la Coupe du Monde qui commence dans 10 jours tout pile ce matin et dont RMC est la radio officielle. Notre envoyé spécial d'ailleurs aux États-Unis, Martin Bourdin, qui est déjà sur place en direct de Miami précisément, nous racontait un petit peu plus tôt ce matin eh bien que des Américains n'étaient même pas au courant que le Mondial arrivait là dans leur ville. On le retrouvera toute la semaine en direct hein, tous les matins sur RMC. Alors en attendant, l'armée américaine dit ce matin qu'elle a encore mené des frappes durant le week-end en Iran, qui de son côté dit avoir visé une base utilisée par les États-Unis. Tout ça, vous le savez, en plein cessez-le-feu. Et l'autre info du matin, c'est la France qui a de nouveau arraisonné un navire pétrolier russe. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé il y a quelques minutes, Romain Hougain.
Oui, c'est passé hier dans l'océan Atlantique à plus de 700 km à l'ouest de la pointe bretonne, dit le chef de l'État dans un message sur X, accompagné d'une courte vidéo.
Voilà, un montage de 6 secondes sur ce drôle de fond sonore qui rappelle un peu ce que fait l'administration Trump pour communiquer sur ses opérations en Iran, de la propagande de guerre. On y voit notamment un hélicoptère survolant le navire russe dans un épais brouillard en haute mer. Un soldat descend en rappel attaché à une corde avant de monter à bord. Ce pétrolier, actuellement escorté vers un point de mouillage, était en provenance de Mourmansk, dans le nord-ouest de la Russie. Il s'agit de la 4e interception de ce type ces derniers mois. Des navires qui appartiennent à la flotte fantôme russe, soupçonnés de contourner les sanctions internationales infligées à Moscou. Les 3 précédents navires avaient pu repartir après le paiement d'une amende.
Emmanuel Macron, tiens, on en parle, il recevra à 8h30 ce matin à l'Elysée le patron d'un géant japonais de la tech. Géant qui a promis d'investir 75 milliards d'euros en France liés à l'intelligence artificielle durant les 5 prochaines années. C'est à l'occasion de la 9e édition du sommet Choose France. Le rendez-vous d'Emmanuel Macron. Il va recevoir 200 grands patrons aujourd'hui au château de Versailles. Alors c'est dans ce contexte aussi que le SMIC augmente ce matin pour un peu plus de 2 millions de Français. C'est un effet mécanique lié à l'inflation. Une personne au SMIC touchera désormais 35 euros net en plus à la fin du mois. Et alors ça paraît complètement fou, mais ces 35 euros suffisent à faire basculer les salaires minimums de 70% des branches professionnelles quand même en dessous du SMIC. Le gouvernement met la pression à ses 126 secteurs concernés pour relever les salaires. Mais alors en attendant, il y a des milliers de Français qui gagnent moins que le SMIC, Antonin Audion.
C'est le cas d'Isabelle, 59 ans, employée dans un abattoir. Elle venait de dépasser le niveau du SMIC au bout de 25 années dans cette même entreprise. Mais à partir d'aujourd'hui...
Le SMIC, il va être 4 euros plus cher que moi. Je trouve ça inadmissible.
Même situation pour Claire, 10 ans d'ancienneté dans ce même abattoir, où elle a occupé de nombreux postes. Son salaire a lui aussi été rattrapé par cette revalorisation du SMIC, si bien qu'un débutant sans aucune expérience touchera le même salaire qu'elle.
C'est pas normal du tout. On a de l'expérience plus de l'ancienneté. Ce serait pas normal qu'il gagne plus cher que moi.
Dans ces entreprises, en effet, les premiers échelons de la grille salariale sont encore sous le SMIC. C'est illégal et cela concerne 70% des branches professionnelles selon le ministère du Travail. Une stratégie pour tirer les salaires vers le bas selon Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT.
Dans les grilles, quand les niveaux sont complètement tassés, complètement en dessous du SMIC, ça tire mécaniquement tous les salaires vers le bas car les plus bas niveaux ils sont en dessous du SMIC et donc du coup ça tire tous les niveaux et tous les salaires vers le bas.
Les entreprises ont 45 jours pour lancer des négociations avec les partenaires sociaux et se mettre en conformité. Sans accord d'ici à la fin de l'année, des sanctions pourraient tomber, menacent déjà le gouvernement.
Les recherches doivent reprendre aujourd'hui à Fleurance, dans le Gers, ville où la jeune Liana, 11 ans, a disparu depuis vendredi dernier à la sortie du collège, depuis qu'elle est montée dans la voiture d'un homme de 41 ans, d'après un témoin, homme qui a été depuis placé en garde à vue. C'est le début de la deuxième semaine à Roland-Garros, qu'on vit tous les jours sur RMC, notre radio digitale à 100% terre battue. Alors, on boude pas notre plaisir, il reste une Française pour cette deuxième semaine. C'est Diane Paris qui va jouer son 8e de finale aujourd'hui face à une adversaire moins bien classée qu'elle, Elena Marjac.
Et quoi de mieux que d'être pour la première fois en deuxième semaine d'un grand chelem à la maison. Roland-Garros, c'est comme chez elle ou presque. Diane Paris a grandi à quelques pas du stade. Et ce 8e de finale aujourd'hui est largement abordable face à Maja Chwalinska, une Polonaise 114e mondiale.
Une belle opportunité de pouvoir jouer une fille comme ça en 8e de finale de grand chelem, capable de sortir un très gros niveau de jeu aussi. On a envie et on se voit aller plus loin.
Plus loin, sa coach aussi y croit et l'espère. Julie Coin s'occupe de Paris depuis l'hiver dernier.
Faudrait qu'elle cède comme elle a très bien fait du public. Elle joue sur ça et la confiance qu'elle a accumulée ces derniers temps.
Au-delà de sa confiance et de son calme, Diane Paris s'appuie sur son revers à une main qui fait des dégâts sur terre. Pour Florence Serra, consultant RMC Sport, elle s'avance clairement en favorite sur ce match.
Là, on l'attend. On attend à ce qu'elle gagne, continue juste à faire ce qu'elle fait. Comme Loïse Boisson l'année dernière, on a envie qu'elle y aille aussi en quart, en demi, pourquoi pas plus.
Alors pourquoi ne pas marcher dans les pas de Loïse Boisson, demi-finaliste surprise l'an passé? Diane Paris l'a confié. Si Loïse l'a fait, alors pourquoi pas elle aussi?
Mais alors l'image du jour à Roland-Garros, ce sera surtout les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont présenter comme l'année dernière leur trophée de la Ligue des Champions au public de Roland-Garros, certainement sur le cours central.
C'était le journal de Quentin Vinet et c'est l'heure de l'économie avec Emmanuel Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
C'est le dernier sommet Choose France aujourd'hui pour Emmanuel Macron, avec des annonces qui devraient être spectaculaires.
Mais oui, Apolline, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui gagne. L'équipe de France de l'attractivité est-elle aussi en pleine forme. 9e édition du sommet Choose France est la dernière pour Emmanuel Macron, l'inventeur de cette manifestation qui va accueillir sous les ors du château de Versailles plus de 200 chefs d'entreprise de 50 pays différents pour les inciter à investir en France. Et ce sera, si on s'en tient aux chiffres, une sortie en apothéose, puisque 87 milliards d'euros d'investissement avait été annoncé sur les 8 premiers sommets Choose France, donc 87 milliards sur 8 sommets. Et là, eh bien, un seul projet devrait concentrer 75 milliards d'euros d'investissement étranger, au maximum 75 milliards d'euros d'investissement étranger. C'est celui du conglomérat japonais SoftBank, un projet qui consiste à créer jusqu'à 5 gigawatts de capacité de data center, potentiellement la consommation de 3 nouveaux EPR. Le data center, c'est vraiment au cœur des plus gros projets d'investissement étrangers depuis plusieurs années maintenant.
Ces fameux data centers, c'est donc l'avenir de l'industrie française.
Alors, c'est positif parce que évidemment, ça veut dire que la France est attractive notamment pour son énergie nucléaire, mais attention, un data center, c'est du béton, des serveurs, des transformateurs électriques, c'est peu d'emplois, c'est aussi peu de valeur ajoutée parce que les data centers, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est ce qui héberge l'intelligence artificielle. La valeur de l'IA, c'est quoi? C'est les algorithmes, c'est les données, c'est les brevets, c'est les puces, et tout ça est capté par les OpenAI, Anthropic, Google, Nvidia. Et donc le défi, c'est désormais de faire venir aussi les entreprises qui utiliseront cette puissance de calcul pour produire, innover et employer en France.
Les chiffres du jour, Emmanuel, comme chaque matin sur RMC, ça monte ou ça descend?
Oh non, plutôt des bonnes nouvelles. Ça descend. Le gazole, 2,06 €. Le litre, c'est 5 centimes de moins qu'il y a une semaine. Ça n'a jamais été aussi bas depuis la mi-mars. Le samplon 95, qui se maintenait sur des plateaux très élevés, bah lui aussi commence à descendre, pour le plaisir, 2,004 € aujourd'hui. Donc demain, on devrait casser la barre des deux. C'est 3 centimes et demi en moins d'une semaine. Le pétrole, $93.50 le baril. C'est le plus bas quasiment depuis le début de la guerre en Iran. Et le gaz est stable, presque 47 € le mégawatt-heure.
C'était l'économie avec Emmanuel Le Chypre. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h12, on se retrouve dans un instant. Arnaud Demange revient pour nous faire rire. À 8h30, notez-le, le face-à-face, mon invité, c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Et puis à 8h50, nouveau rendez-vous sur RMC. On sera en direct de Miami aux États-Unis avec notre envoyé spécial Plongé dans l'Amérique. Désormais, ce sera tous les jours à 8h50. Plongé dans l'Amérique de Trump. Dans l'Amérique de Trump, avant la Coupe du Monde qui commence dans 10 jours. C'est déjà le moment sur RMC, les 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour.
Bonjour
tous les amis.
Comment ça va?
Ça va et vous, Apolline? Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour Géraldine. Et ce matin, on est tous un peu tristes. C'est jour de deuil à RMC.
Et pourquoi?
Puisque le PSG a gagné la Ligue des Champions. Alors notre actionnaire, l'armateur marseillais, CMA, CGM, a décrété 3 jours de deuil et a décidé de punir tous les traîtres à RMC qui ont publié des stories Instagram avec des commentaires à la gloire du PSG. Il y a 15 jours de salaire retenu par story. Mathieu, vous devez 50 salaires à Rodolphe Sadé. Et Jérôme Roten sera envoyé dès ce soir sur un super tanker dans le détroit d'Ormuz. Le bateau est arrivé. Au revoir Jérôme. Bon voyage. Moi j'ai regardé le match dans un bar avec des copains. Il y avait des CRS à côté de nous. Et quand Gabriel, le défenseur d'Arsenal, a manqué son pénalty, tous les CRS ont fait: oh putain, c'est pas vrai. Et après ils sont partis protéger des vitrines. Voilà, c'était leur soirée. Il y avait des gens bourrés dans toutes les rues qui vomissaient partout parce que...
Quand je suis content, je vomis. Je suis hyper content.
Et il y a eu de la casse, il y a eu de la bagarre pour fêter le titre. C'est d'ailleurs assez curieux ce réflexe de se battre quand on est content. Vous imaginez si on faisait la même chose, nous, dans la vraie vie, au bureau, par exemple. Oh, monsieur le directeur, merci pour mon augmentation. Ça va tellement bien. Je sais pas comment vous remercier. Ah, vous m'avez mis un coup de poule. Ouais, parce que je suis tellement content, ça va me changer la vie, vous imaginez. Oh, allez, je vous en remets un deuxième. Tiens, tant qu'on parle de sport... en tennis, vous vous souvenez de l'adversaire de Moïse Kouamé jeudi dernier?
Adolphe.
Adolfo Valero. Bon, on savait que les Adolphe n'aimaient pas les Moïse. Eh ben, il n'a pas vraiment digéré sa défaite. Il a déclaré que le match n'aurait pas dû être arbitré par une femme.
Oui,
voilà, il a dit pas au niveau. En fait, il était dans son bunker.
a tapé du poing sur la table. Fräulein Nischkut! Tennis kaput! C'est juste que t'as le seum contre Moïse Kwame, c'est tout. Parce que Moïse, il lui a ouvert sa mère en deux. Et il est pas content. Allez, rentre chez toi, Adolfo. Hey, gros bisous à Pedro Miguel Goebbels. Non. Poutou.
Raphaël Glucksmann dévoile ses propositions pour 2027 hein, dans un livre programme. Le titre, Nous avons encore envie.
Oui, nous avons encore envie. On dirait un message de relance d'un Versaillais sur Tinder. Après 4 jours sans réponse, Maud, nous avons encore envie. Le livre, il fait 200 pages, mais on peut le synthétiser en une phrase. Et si on faisait une gauche de droite, mais sympa. Alors, est-ce qu'il va y aller à la présidentielle, Glucksmann? J'ai entendu, il se donne 3 mois. La semaine dernière, il a d'ailleurs fait tous les gros plateaux, le 20h de TF1, quotidien, machin, patin, couffin, pour dire juste, écoutez, monsieur Boulot, pour la présidentielle, je sais pas, faut voir, on verra dans 3 mois. Quand t'as le 20h de TF1, c'est le moment de l'annoncer ta candidature. Enfin, c'est pas le genre d'endroit où tu vas tous les 15 jours. Enfin, je sais pas, Alain Bauer dans le face-à-face.
Oh, merci!
Vous voyez ? Pourquoi il va là-bas pour dire qu'il hésite? Ça fait quand même pas envie.
Non.
Tu veux rencontrer les candidats à la présidentielle les moins chauds de ta région? Envoie Glucksmann au lieu de... Et découvre une vague envie de faire des trucs. Bon, peut-être avec des gens. Glucksmann au 8-12-12 pour des moments bof avec des gens que bon. Il est pas motivé quoi. En fait, Glucksmann, tu sens que tu le fais un peu chier à être moins intelligent que lui. Voyez, est-ce qu'il va s'abaisser à nous gouverner? C'est pas dit. Mais alors attendez, tiens, j'ai une blague de feu. Alors accrochez-vous.
Une blague de feu.
Ouais,
il annonce la blague de feu.
Cette indécision de Glucksmann, Léa, vous verriez dans quel état ça la met. Allez.
Oh Allez, hier c'était la fête des mères. Hein.
Oui, et je sais, Apo, que vous avez été gâtés puisque vos enfants se sont cotisés pour vous offrir un jerrycan d'essence. les braves petits, avec la poésie habituelle. Maman, tu es la plus belle des mamans, mais comme il y a la guerre en Iran, tu ne peux plus te déplacer, nous conduire aux activités. Alors nous t'offrons de l'essence pour profiter de notre enfance. Ouais, ça va, j'ai compris. Ouais. Je suis taxi, quoi. Alors j'ai lu que Total Energy avait décidé de baisser le prix des carburants pour la fête des mères et la fête des pères. C'est beau quand même, une multinationale qui pense à la famille. Est-ce qu'ils nous feront le pétrole moins cher pour la crémation de mamie aussi?
Oh.
Alors du coup,
non.
C'était une bonne ambiance chez Total tout le week-end. Bonjour, le plein de sans-plomb 95, s'il vous plaît.
Oh mais oui, vous allez chez vos parents pour leur souhaiter une bonne fête?
Alors, non, c'est parce que je suis orphelin.
Ah bah non, monsieur, désolé. Pas de maman, pas de carburant.
Oh non.
C'est la règle. Pas de daron, pas de sans-plomb.
Non.
Allez, fous le camp de ma station, Rémi sans famille.
Oh
ouais, ils sont pas gentils. Hein. Allez, à demain.
C'est pas gentil. Allez, merci beaucoup, Arnaud. Au 32-16, vous êtes nombreux à réagir à ces violences dans la nuit de samedi à dimanche après la victoire du PSG. Et Laurent Nunez qui annonce ce matin plus de 890 interpellations. Bonjour Grégory.
Oui, bonjour.
Grégory, vous êtes en Seine-et-Marne et vous êtes gérant d'un parc auto. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous samedi soir? Vous avez observé tout ça?
Alors, je vais être bref parce que je dois faire assez vite parce que je suis en plein boulot.
Alors moi,
j'étais abonné de 2006 à 2010 au Parc des Princes.
Ouais.
Déjà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu maintenant, avec ce qu'on connaît maintenant. Avant, c'était plutôt, on va dire, bon enfant. Il y avait quelques débordements, mais rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, mais c'est n'importe quoi et ça ternit l'image du club. Par exemple, là, il y a 20 ans, il y avait la finale Paris contre Marseille, plus la Coupe du Monde en 2006. Et bon, j'étais jeune aussi à l'époque, mais il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de casse, de voitures brûlées, d'autres choses.
Il y a eu des violences, mais c'était des violences plus qu'on pourrait raccrocher plus au hooliganisme. Mais il y a eu des morts.
Il y a eu des morts.
Oui, il y a eu des morts, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Maintenant, c'est de la casse, et enfin, il y a plein de choses.
On est passé, et je vous recommande d'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a vraiment un historique ce matin dans le journal Le Figaro qui est fait par Jérôme Fourquet, le sociologue, qui parle de la bascule entre hooliganisme et violences urbaines. Alors oui, mais cela dit, ça ne veut pas dire que dans le hooliganisme, il n'y avait pas de mort. Oui, c'était pas sûr, la même nature de violence, ou en effet avec un peu moins de casse urbaine, mais il y avait des violences, et il a fallu d'ailleurs s'y attaquer.
Oui, je suis d'accord. Ils sont attaqués à tout ça, ok, ils ont fait le plan Le Prou. Mais par contre, ils ont stigmatisé pratiquement tous les supporters du Paris
Saint-Germain. Vous n'avez même pas vibré du côté joyeux, ou est-ce que ça vous a complètement gâché la fête à vous, Grégory?
Alors, moi, déjà, personnellement, j'ai pas regardé le match parce que déjà, je travaillais, pas pu.
D'accord.
Bon. Et puis, honnêtement, depuis 2010, c'est plus du tout pareil qu'avant. Quoi.
Ça vous a découragé, quoi. Vous êtes plus dans.
Ah oui,
vous êtes...
carrément. Non, pas du tout. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Et puis.
Merci Grégory d'avoir appelé au 32-16. Vous êtes nombreux hein, à réagir ce matin, très nombreux à réagir à ces violences. Et je pense en particulier à cette supporter de Lens qui disait « on sait faire la fête quand même après le foot, on l'a montré nous à Lens, sans qu'il y ait forcément de violence ». Je pose la question dans un instant, que faire? Comment est-ce qu'on peut justement contrer ces violences-là? À Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, quasi candidat à la présidentielle, il est mon invité dans un instant sur RMC et sur BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes le président du Rassemblement National, député européen et candidat bis, je l'appellerai comme ça, à l'élection présidentielle. On va revenir évidemment sur ce qu'il s'est passé après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Nuit de violence à Paris et dans plusieurs villes de France. Le ministre de l'Intérieur annonce ce matin qu'il y a eu 890 interpellations, 45% de plus que l'an dernier. On va revenir évidemment sur ces interpellations, sur ce qu'il s'est passé, sur les quelques jugements qui devraient arriver dès cet après-midi avec les premières comparutions immédiates. Mais je voudrais qu'on se projette, qu'on essaie d'imaginer qu'on est dans un an. Dans un an, même jour, même heure, quasiment. Imaginons le scénario où vous auriez été élu deux semaines plus tôt que la Ligue des Champions, élu président de la République, vous ou Marine Le Pen. Deux semaines après les élections présidentielles, il y a la finale de la Ligue des Champions. Le PSG, imaginons, est en finale et gagne. Comment est-ce que vous feriez pour que ce soit pas la même chose?
Bon, d'abord, très certainement, deux semaines après le second tour des élections, il aurait été très certainement du rôle du président de la République, puisque la passation n'aurait pas eu lieu, de gérer de tels incidents. Mais d'abord, j'aimerais dire comme...
Vous vous défaussez un peu quand même.
Non, je vais vous présenter... Non, je vais peut-être remettre un peu les choses en perspective.
Alors imaginons que c'est trois semaines après, c'est vous?
Ce qui apparaît pour beaucoup de Français... comme une non-réponse de la part de l'État. Parce que moi, je suis comme beaucoup de gens, j'ai été horrifié par les scènes du week-end. Nous avons vu, en plein Paris, des scènes de quasi-guerre civile. Des commerces ont été pillés, vandalisés, des policiers ont été pris à partie, des journalistes, des abribus ont été cassés. Et on a vu un climat et un déferlement de violence auquel nous sommes malheureusement en train de s'habituer et qui ne fait qu'empirer, mois après mois, année après année. Et si j'ai accepté votre invitation ce matin, c'est pour lancer un message d'alerte aux Français et leur dire réveillez-vous. Réveillez-vous parce que la France est en train de devenir un pays où la vie et la fête sont devenues aujourd'hui totalement impossibles. Il n'y a plus une seule manifestation liée au football, une seule manifestation sportive. Il n'y a plus de fête populaire, de fête de village dans notre ruralité, sans que cela dégénère systématiquement et que l'on voit se reproduire des comportements qui sont des comportements de prédateurs et qui sont systématiquement déployés selon le même mode opératoire. On arrive...
Systématiquement, dites-vous.
Systématiquement, on commence par défier les policiers, que l'on considère être une bande rivale. On s'en prend aux forces de sécurité, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers. On détruit tout sur son passage. On casse les commerces, on casse les abris de bus, on brûle des voitures. Ensuite, on pille. Et je dis aux Français, réveillez-vous, parce que dans quelques temps, ils casseront la porte des immeubles et ils rentreront dans vos appartements si l'État ne reprend pas la main sur sa politique de sécurité, sur sa politique pénale et par-dessus tout sur sa politique migratoire. Parce qu'il y a évidemment un lien, madame, entre notre incapacité depuis 30 ans à maîtriser l'immigration, à assimiler des populations qui sont arrivées dans notre pays et dont beaucoup aujourd'hui sont physiquement en France, mais dont l'âme et dont le cœur est ailleurs et ne rate jamais une occasion pour exprimer leur mépris à l'égard des institutions, leur haine de la France et pour s'en prendre à des symboles. C'est vrai avec les commerces, c'est vrai avec les voitures de famille modestes
ce matin,
qui n'ont que leurs yeux pour pleurer au petit matin.
Vous dites ce matin, Jordan Bardella, que ce qu'il s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, c'est un lien avec l'immigration.
Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de Français qui vous répondent non. Vous voyez, il y a même des Français issus de l'immigration qui, lorsqu'ils sont arrivés en France, il y a très longtemps, ont fait un effort exigeant pour devenir Français, pour respecter les institutions, pour apprendre la langue, pour épouser le roman national. Et il y a aujourd'hui des jeunes qui sont issus de cette immigration, qui ne semblent pas soumis à cet effort et qui n'aura jamais encore une fois une occasion pour exprimer leur rejet des institutions et pour exprimer leur rejet de notre pays. Et c'est vrai que c'est bien souvent lié au football, c'est bien souvent lié à certains clubs de foot. Il y a quelques jours, je ne crois pas qu'il y ait eu des incidents de ce type lors de la victoire du RC Lens, lors de la Coupe de France. Lorsqu'il y a des manifestations liées au rugby ou à Roland-Garros, on ne voit pas ce type de scène se produire. Donc le monde ce matin nous regarde effaré. Nous avons perdu notre grandeur, nous avons perdu notre rayonnement et nous sommes désormais en train de perdre la main sur notre propre territoire dans un pays qui se tribalise et dans lequel il n'y a plus aujourd'hui un seul territoire, madame, plus une seule commune, plus une seule ville, une seule banlieue, un seul village français où on est à l'abri de la violence et de l'insécurité. Donc cette question, elle sera évidemment au cœur de la campagne présidentielle et nous serons toujours, nous, au Rassemblement National avec Marine Le Pen, du côté de la protection des Français, de la tolérance zéro et de la sanction
avec
les criminels qui pourrissent la vie des honnêtes gens.
Il y a énormément de choses dans tout ce que vous venez de dire. C'est une sorte de long plaidoyer. On va s'arrêter sur votre tolérance zéro, sur les conséquences. Je vous reposerai quand même la question, parce qu'à un moment ou à un autre, si vous venez au pouvoir, il faut pouvoir assumer ce que vous dites. Et donc, quand je vous dis deux semaines après, il y a potentiellement le même scénario, comment on change. Mais vous dites, il y a un rapport avec l'immigration. Est-ce que vous dites comme Éric Zemmour, vous avez peut-être entendu ses propos ce week-end, il dit, les violences d'hier n'ont rien à voir avec le foot, elles sont les premiers symptômes d'une guérilla de civilisation.
Nous avons vu à l'évidence des scènes de guerre civile. Je vois pas bien le rapport entre le football, la victoire d'un club de foot du Paris Saint-Germain dont il faut se réjouir et se féliciter, et les drapeaux palestiniens que j'ai pu voir par exemple. Je ne vois pas bien le lien entre la victoire d'un club de football et la nécessité de mobiliser près de 22 000 policiers, notamment dans l'agglomération parisienne, parce qu'on sait que ces territoires sont fracturés. Ils sont fracturés par le communautarisme, ils sont fracturés par la présence autour de Paris de nombreux quartiers sensibles. Souvenez-vous de cette finale en 2022 entre Liverpool et le Real Madrid
au Stade de France,
où on a vu des razzias de jeunes qui sont descendus des cités pour piller les supporters, pour piller les supporters britanniques notamment, pour casser, pour vandaliser.
Pour vous, c'est les
pieds. Donc
ce sont les mêmes. Vous avez dit
comportements de prédateurs, bien sûr.
Vous avez dit tout à l'heure, je voudrais réveiller les Français parce que demain, ils viendront fracasser les portes de vos immeubles. Ils rentreront dans les immeubles. C'est qui ils?
Ce sont ces jeunes qui se comportent comme des prédateurs. Ce sont ces jeunes qui, bien souvent, sont en situation d'échec scolaire, qui expriment régulièrement leur contestation de l'autorité, leur contestation de notre identité, de notre langue, de nos valeurs, de nos policiers. Je vois pas encore une fois bien le rapport entre la victoire d'un club de football et le fait de cibler des forces de police au tir de mortier lorsque l'Olympique de Marseille dans les années 90 a remporté la Ligue des Champions. Je ne crois pas qu'il y ait eu nécessité de déployer des forces de police pour arrêter des cassages d'abribus ou pour abriter des incendies de voitures. Vous mettez à la place, madame, et je sais que vous le faites et que vous donnez régulièrement la parole aux honnêtes gens, mais des Français qui se réveillent le matin, qui travaillent très dur et qui voient leur voiture incendiée. Des gens qui se lèvent très tôt le matin, qui vont bosser et qui en ont ras-le-bol de payer pour les autres, de payer pour ceux qui ne font rien et pour ceux qui cassent tout. Donc, si demain nous sommes à la tête du pays, nous sifflerons la fin de la récréation. Il faut d'abord mettre en place systématiquement le principe du casseur-payeur. Et deuxièmement, nous sommes favorables à la suppression des allocations allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes, parce qu'il y en a assez que les gens qui travaillent, que les gens qui bossent et qui se lèvent le matin soient contraints de payer pour ceux qui cassent tout. C'est insupportable.
Et casseurs-payeurs, allocations.
Comme beaucoup de Français, insupportable de voir la septième puissance économique mondiale être tenue en échec par des hordes de prédateurs.
Jordan Bardella, vous avez vu les mots de Geert Wilders, le néerlandais, les mots d'Alice Wieder, qui est à la tête de l'AFD en Allemagne. Geert Wilders, il dit, avec des images de ce qu'il s'est passé samedi soir, arrêtez-les et déportez-les tous. Alice Wieder, elle dit, remigration, est-ce que vous vous sentez proche de cette analyse-là ?
Non, moi je me sens proche de l'analyse qui consiste d'abord à faire preuve de la tolérance zéro à l'égard de ce type de comportement.
Oui, mais vous avez parlé de migration.
Je l'ai dit. Ah oui, je pense qu'il y a un lien évidemment avec l'immigration.
Alors maintenant, je vous pose
la première mesure, madame.
Est-ce que vous pensez comme eux ?
Je vous passe sur les mots. Le premier moyen pour établir la sécurité en France, c'est d'arrêter l'immigration. Voyez.
Mais vous n'allez pas renvoyer chez eux des gens qui sont là depuis deux générations, une génération?
Alors, non, mais en revanche, nous allons expulser systématiquement les délinquants et criminels étrangers. Deuxièmement, si on n'arrête pas les flux, on ne peut pas relancer la politique d'assimilation.
La plupart sont nés en France.
Oui, mais le savent-ils?
Ils ont été élevés en France.
Oui, mais le problème, c'est qu'on a fait venir dans notre pays, et c'est le problème de l'effondrement de l'école, de l'effondrement de notre système culturel, de notre politique
d'assimilation. Est-ce que vous condamnez les propos d'Alice Wieder qui dit remigration?
Alice Weidel est une députée allemande. Donc, je ne vais pas me mettre condamner. Oui, enfin, l'AFD, parce qu'elle est la présidente d'un parti politique allemand qui s'appelle l'AFD, ne siège pas dans le groupe du Rassemblement National au Parlement européen.
Mais vous avez déjeuné avec elle?
Oui, j'ai déjeuné avec elle il y a peut-être trois ans. Oui, c'est ça.
Deux ans, me semble-t-il. Oui. Geert Wilders, donc, vous vous êtes retrouvé avec lui à un rassemblement des patriotes à Milan.
Donc, vous pensez qu'avec ce qu'on vient de vivre ce week-end, le sujet, c'est d'aller observer les déclarations de responsables politiques.
Ma question, c'est jusqu'où vous allez, dans la logique, puisque vous dites, c'est un problème, je l'entends parfaitement, hein, vous dites, vous l'avez exprimé, c'est un problème qui est lié à l'immigration.
Absolument.
Maintenant, je vous pose la question, c'est un problème lié à l'immigration, mais les jeunes, la plupart de ceux qui ont été arrêtés, ils sont de nationalité française.
Absolument.
Ils sont nés en France.
Absolument, mais il y a un lien évident avec l'immigration, et c'est la raison pour laquelle je vous explique depuis quelques minutes que nous avons un problème avec notre politique d'assimilation. Donc c'est très simple, ceux qui sont étrangers, qui commettent des crimes ou des délits, seront expulsés. Ceux qui sont français devront se confronter à un système pénal qui aura été remis en ordre et qui fera preuve de la fermeté la plus totale.
Donc
nous allons rétablir, madame, des peines planchers. Lorsque vous vous en prenez, par exemple, à un policier, que vous attentez à l'intégrité physique de la personne, qui doit retrouver un caractère sacré dans le droit français, il ne sera plus possible d'aménager les peines. Il y a des peines maximales dans le droit français. Il doit donc exister des peines minimales et nous les mettrons en œuvre à compter du printemps 2027 si nous arrivons à la tête du pays. Deuxièmement, nous devons développer des lieux d'incarcération pour les mineurs. Une grande partie de cette délinquance est liée à notre impuissance totale à l'égard de la délinquance des mineurs depuis trop longtemps. Donc si demain nous sommes en capacité de diriger le pays, nous développerons des lieux d'incarcération pour les mineurs. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de centres éducatifs fermés qui sont en nombre dérisoire. Et sur le modèle des pays d'Europe du Nord, nous développerons des peines courte, applicable immédiatement, dont la récidive entraînera une multiplication
exponentielle. Parmi les personnes interpellées, il y en a une partie qui sont mineures, mais pas tant que ça. Et ces mineurs de l'an dernier, par exemple, ont pris pour la plupart, en effet, plutôt des avertissements que des... C'est une peine, mais qui sont pas forcément des peines d'emprisonnement à proprement parler.
Je pense que les peines de privation de liberté doivent être systématiques, parce que quand on s'en prend à un policier, qu'on tire au mortier sur un fonctionnaire de la République française, quand on détruit un abribus, quand on pille des magasins comme ça a été le cas samedi soir sur les Champs-Élysées, quand on chahute en meute des supporters anglais et que ces images font le tour du monde, comprenez bien que quand vous avez en face de vous un État qui non seulement ne fait plus peur, est incapable de soutenir ceux qui protègent la population française, mais qui en plus vous applique un avertissement, alors le caractère dissuasif n'existe pas. Donc il faut revenir à un caractère dissuasif de la peine.
890 interpellations, Laurent Nunez dit « la situation était globalement sous contrôle ».
Bah heureusement qu'elle... Alors, qu'est-ce que ça aurait été si la situation n'avait pas été sous contrôle ? Voyez bien que, madame, quand on a des représentants de la République française et des députés qui sont proches de Monsieur Macron ou de Monsieur Attal, et je pense à Carl Olive, qui monte sur une voiture, sur un capot de voiture avec des jeunes...
Il a reconnu a posteriori que c'était assez puéril et que c'était la voiture, dit-il d'un de ses amis.
Le symbole et l'appel d'air qui est lancé. Quand vous avez des députés de la France Insoumise, j'ai entendu Madame Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, proche de Monsieur Mélenchon, qui, dans un tweet, appelle les forces de police à quelques heures des incidents que nous avons vécu.
Elle l'accuse, la police, d'avoir, je cite, chargé des gens qui ne commettaient aucun débordement.
Voilà. Mais comment vous pouvez vous étonner derrière que des jeunes qui voient ces symboles de la République française se fourvoyer dans la violence, dans l'incitation à l'insurrection et au désordre? Comment peuvent-ils ensuite prendre ces gens-là comme modèle et comprendre qu'ils doivent se tenir à carreau? Donc, nous allons profondément changer la doctrine, non seulement de la sécurité en France, mais changer précisément la doctrine pénale. Et alors, on a bien vu l'aperçu samedi soir dans les rues de Paris de la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. La France du tous contre tous, de l'insurrection et peut-être demain de la guerre civile.
Pour vous, c'est une France qui vote à l'effigie, celle qui était dans la rue ?
Ah bah, à mon avis, elle ne vote pas pour le Rassemblement National, ça je peux vous l'assurer, oui. En revanche, ceux qui ont vu leur véhicule brûler et leur commerce cassé, très certainement ont beaucoup plus de sympathie pour moi et pour Marine Le Pen qu'ils n'en ont pour Jean-Luc Mélenchon.
Vous avez dit, Jordan Bardella, on en a ras-le-bol. Le mot, il a été aussi prononcé par le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit ras-le-bol, c'est fini, je ne veux pas qu'on s'habitue à ça, on n'en veut plus.
Bah c'est dommage qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle pour nous éclairer de ses analyses sécuritaires et de la fermeté qui est aujourd'hui attendue par les Français. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 10 ans que l'insécurité explose. Ça fait 10 ans que la politique d'immigration dans notre pays est hors de contrôle. Je me rappelle d'un président de la République qui, à vos confrères de Brut, il y a quelques années, parlait de violence policière en épousant les thèses de l'extrême gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Je me souviens d'un ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, qui indiquait qu'il fallait poser un genou à terre devant tout ce que notre pays comptait de mouvances anti-flics et de mouvances d'ultra-gauche. Donc, vous voyez bien que c'est un changement de mentalité. Donc, si demain nous sommes à la tête du pays, non seulement nous mettrons en place une politique sécuritaire et une politique pénale qui protégera les Français, qui mettra hors d'état de nuire les prédateurs, les mineurs, les majeurs, mais d'abord et avant tout les récidivistes, et surtout nous reprendrons la main sur l'école, parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'école n'est plus capable de fabriquer des citoyens éclairés, capables d'aimer le pays, de partager le roman national. Bah, je pense qu'il faut totalement changer.
Les profs sont là, ils seront encore là.
Encore faut-il qu'ils soient soutenus. Vous voyez, par exemple, dans le choc d'autorité que nous proposons à l'école, nous souhaitons bannir l'usage des téléphones portables au collège, mais aussi au lycée. Nous souhaitons rendre le vouvoiement obligatoire. Nous souhaitons, par exemple, qu'il puisse y avoir une tenue uniforme à l'école. Une tenue unique, ça ne veut pas dire un uniforme forcément dégradant.
Ça n'a pas totalement fait ses preuves. Vous l'avez vu, il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu des thèses qui ont été faites.
Perpignan, qui est dirigé par Louis Alliot, s'est porté volontaire pour précisément expérimenter cette tenue. Je pense que d'avoir une tenue unique qui bannisse les différences sociales entre les élèves, qui permettent de recréer du commun. On manque de structure.
Pour vous, tout
ce tient. On manque de politique qui recrée du commun. Et ce n'est pas une mesure qui va permettre de soigner la situation. Mais je dis aux Français, réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Et dans quelques mois, lors de l'élection présidentielle, il n'y a que 2 possibilités qui vont s'offrir à vous. Soit continuer comme avant, continuer avec les mêmes, continuer avec des gens qui ferment les yeux sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays et dans tous nos territoires, ou alors voter pour des gens qui ont l'intuition et qui, au fond d'eux-mêmes, le sentiment que le pronostic vital de la France est engagé.
Maintenant, je vous pose la question de l'efficacité de vos mesures. Encore une fois, imaginons, vous êtes élu, il y a la Ligue des Champions. Est-ce que vous en venez presque à espérer que le PSG ne gagne pas une troisième fois ?
De toute manière, qu'il gagne ou qu'il perde, une grande partie des supporters casse quand même. Et je pense que tout le monde a une responsabilité, que le Paris Saint-Germain a une responsabilité, que la direction du Paris Saint-Germain et du club de foot a aussi une responsabilité et doit nécessairement, madame, à chaque fois qu'il y a des manifestations de ce type, appeler l'ensemble des supporters au calme, à la retenue et à la responsabilité, même si...
Les joueurs ont dit, il faut être sage, soyez sage en fêtant la victoire. Vous avez entendu Nasser qui lui aussi a dit qu'il condamnait, et les joueurs ont applaudi Emmanuel Macron lorsqu'il a dit qu'il condamnait les violences. Ça vous suffit pas ?
Ils ont eu raison de le faire. Mais il faut distinguer ce qui relève de la des festivités, ce qui relève de la fête et ce qui relève de cette victoire dont beaucoup de Français se réjouissent.
Je vous repose la question de l'efficacité.
On est en train de s'habituer à l'irrémédiable. Et donc, il va falloir muscler les dispositifs de maintien de l'ordre dans ce type d'événement. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce qu'on développe la reconnaissance faciale pour favoriser l'identification des perturbateurs et des prédateurs.
Bruno Retailleau, il est favorable aussi.
Je pense qu'une majorité de Français est favorable à toutes les mesures qui permettront de renforcer la sécurité.
Donc, reconnaissance faciale.
Il faut que la politique pénale suive. Il faut réformer totalement notre politique pénale et faire en sorte que, lors de ce type d'incident, l'avertissement ne soit pas la norme et la mesure privative de liberté l'exception, mais que ce soit l'inverse. Et enfin, il faut reprendre la main sur notre politique d'immigration avant qu'il ne soit trop tard.
Quand vous dites les casseurs payent et éventuellement une suspension des allocations pour ceux qui auraient commis des méfaits, vous faites comment ? Gabriel Attal, il dit aussi, tu casses, tu payes.
Eh bien, je vais systématiser un principe qui existe aujourd'hui dans la loi et qui est malheureusement trop peu utilisé, qui veut que lorsque, par exemple, vous détruisez un abribus, eh bien, le fait de devoir payer cet abribus en retour n'est pas systématique. Donc, ça prendra le temps que ça prendra.
Bruno Retailleau parle du rétablissement d'une responsabilité financière solidaire.
Si le mineur ne peut pas payer, alors ce sont les parents qui paieront et ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut aussi, lorsqu'il y a des carences éducatives qui sont manifestes, mieux responsabiliser les parents. Moi, je pose une question très simple. Sur les vidéos que nous avons vues circuler, vers minuit, 1h du matin, on a vu beaucoup de mineurs dans les rues de Paris, cassés et s'en prendre aux policiers. Ils sont où les parents ? Que font les parents ? Donc il faut évidemment mieux responsabiliser les parents. Et si demain je suis chef du gouvernement, je donnerai instruction au préfet pour que les allocations familiales soient systématiquement suspendues en cas de récidive. Voyez bien que c'est toute une philosophie qu'il faut changer. Et que lorsque nous avons deux candidats à l'élection présidentielle, qui sont les héritiers d'Emmanuel Macron, monsieur Édouard Philippe et monsieur Macron, monsieur Attal, le lapsus, Macron junior, qui n'ont pas eu un seul mot, madame. Il n'y a pas une seule déclaration de leur part sur les violences. Eh bien, permettez-moi de vous dire que si ces deux personnalités devaient se retrouver au pouvoir dans quelques mois, dans la continuité d'Emmanuel Macron, eh bien, ça promet.
Merci, Jordan Bardella, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Yep. Dans un instant sur RMC, à 10 jours de la Coupe du Monde, on va prendre la température aux États-Unis. On sera en direct de Miami avec l'envoyé spécial d'RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC. La Coupe du Monde de foot, c'est dans 10 jours, mais ça commence ce matin sur RMC.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Toute la semaine à 8h50, on va aller prendre la température aux États-Unis, comprendre comment l'Amérique de Donald Trump se prépare à accueillir l'événement le plus suivi du monde. Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour Apolline,
bonjour à tous. Martin, il est le milieu de la nuit pour vous. Vous êtes notre envoyé spécial aux États-Unis en direct de Miami pour RMC. Martin, racontez-nous, est-ce que ça sent la Coupe du Monde déjà ou pas du tout ?
Je vais vous répondre avec une question, Apolline. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai appris à certains Américains, là, depuis que je suis arrivé, que des matchs allaient avoir lieu à Miami ?
Vous voulez dire qu'ils ne le savaient même pas ?
Et non, ils ne le savaient pas et je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Ça s'est passé plusieurs fois pourtant depuis que je suis arrivé et je trouve que c'est assez symptomatique finalement de ce que je vois depuis 3 jours. Cette Coupe du Monde, pour le moment, elle est très discrète, elle est même invisible à l'aéroport. Pas le moindre produit dérivé là-bas dans le hall de l'aéroport. C'est pas beaucoup mieux en ville, hormis autour du site de la future fan zone où tout est en train d'être installé petit à petit. Ailleurs, ce mondial n'est pas vraiment présent, ni dans les rues, ni d'ailleurs dans les conversations.
Ils parlent de quoi là, les Américains ?
Eh bien, ils parlent des mêmes sujets que les Français. Ce qui les préoccupe, eux, c'est le budget, comment ils vont finir les fins de mois. Évidemment, eux aussi subissent les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, de la guerre en Iran, notamment quand ils vont, comme nous, en France, à la pompe à essence.
Avant, un plein d'essence, c'était $40. Là, regardez, on est déjà au-delà. C'est autour de $60-65 maintenant.
Ici, les clients paient autour de $4.50 le gallon d'essence. C'est à peu près l'équivalent de 3,5 litres. Alors, c'est moins cher qu'en France, mais c'est 50% de plus qu'au début du mois de mars.
Je n'ai jamais vu des prix aussi élevés de toute ma vie. Ce n'est vraiment pas un plaisir. J'aimerais acheter des vêtements, mais je ne peux pas. Alors j'essaie de trouver des produits moins chers, des magasins moins chers pour économiser de l'argent. Je réfléchis aussi à prendre un logement plus petit. Je n'y connais rien au foot, mais on ne devrait pas célébrer quoi que ce soit en ce moment.
Donc si je comprends bien Martin, on n'a pas trop envie de faire la fête là, à 10 jours du mondial, hein ?
Non, on n'a pas du tout envie de faire la fête. Quoique, ça dépend à qui on parle. Il y en a qui sont à fond quand même ici à Miami. Ce sont les Latinos, les habitants nombreux dans cette ville évidemment originaires d'Amérique du Sud. Pour eux, le foot, c'est presque une religion. Et ce qu'on espère surtout ici finalement à Miami, c'est que cette Coupe du Monde permette de changer un petit peu les idées, sortir un petit peu de ce contexte économique très pesant. C'est Brian, un père de famille, qui résume ça le mieux.
Tout le monde cherche un moyen de se changer les idées et ça sera la Coupe du Monde. Ça va nous permettre de faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, de profiter de la vie, peu importe ce qui se passe. On voit tellement de politique sur nos écrans aujourd'hui, ça prend le pas sur tout et ça nous affecte tous, le coût de la vie. Donc la Coupe du Monde, c'est une bénédiction pour nous changer les idées et profiter.
Et ils en ont besoin, les Américains. Récemment, un sondage expliquait que plus de la moitié d'entre eux estimaient être dans une situation économique pire qu'après la crise de 2008, par exemple, pire qu'après les attentats du 11 septembre. Et ça se traduit très concrètement. Vendredi, un père de famille m'a confié carrément, il était un peu honteux quand il m'a dit ça. On mange moins en ce moment, on achète moins à cause des prix, parce que les prix augmentent aussi dans les magasins, les œufs, le lait, la viande et notamment le poulet. Voilà les exemples de produits qu'on m'a cités et dont les prix ont explosé ces dernières semaines ici aux États-Unis.
Merci beaucoup Martin, quel plaisir de vivre avec vous cette avant-coupe du monde. Vous allez nous raconter toute la semaine l'Amérique qui s'apprête donc à accueillir la Coupe du Monde. Martin Bourdin, tous les jours donc en direct avec nous depuis les États-Unis. Je vous rappelle qu'RMC est radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec 100% des 104 matchs qui seront commentés en direct sur notre antenne.
RMC, le mondial de Virginie.
Retour en France côté terrain jusqu'à la finale, Virginie Fulpin. On va vivre cette Coupe du Monde avec vous. Bonjour Virginie. Ce mondial, ce sera à la fois le plus ouvert de l'histoire et le plus fermé. Comment vous expliquez ça?
Oui, c'est paradoxal. On n'a jamais vu autant d'équipes participer à une Coupe du Monde. 48 en 2022. La dernière fois, il y en avait que 32. Et je vous parle pas de la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay où il y avait 13 participants. C'était la Coupe d'un tout petit monde quand même. Aujourd'hui, il y a plus de pays membres de la FIFA que d'États membres à l'ONU, 211 contre 193, donc on ne peut pas vraiment s'étonner de la voir élargir sa compétition phare.
48 équipes, ça permet de voir des équipes qu'on ne connaît pas vraiment.
Je serais bien embêtée là si je devais vous donner le 11 titulaire du Curaçao par exemple, hein, la minuscule île des Caraïbes et ses 150 000 âmes et le plus petit pays à participer à une Coupe du Monde. Ça fait partie des charmes d'un mondial, de voyager, de découvrir des cultures, même si sur le strict point de vue du football, le Curaçao risque bien de repartir avec 3 défaites au compteur et un goal average qui va se rapprocher des abysses face à l'Allemagne, à la Côte d'Ivoire et à l'Équateur. Un mondial à 48 équipes, c'est sympa, mais ça ne relève pas forcément le niveau du football. Non, ce que cherche la FIFA, c'est à développer son sport partout dans le monde. Et plus vous avez de participants, plus l'intérêt augmente. C'est logique, à la fois géopolitiquement et économiquement.
Le problème, c'est que les supporters n'en profitent pas forcément.
Suivre son équipe, c'est un luxe cette année. La FIFA n'a pas plafonné ses prix, donc pour les billets, c'est au moins 100 euros pour un match de poule, 1200 pour la finale, le double de ce qui se pratiquait au Qatar. Pourtant, ces billets, ils se vendent, hein, mais pas forcément aux mêmes catégories de population. Quand on parle de Coupe du Monde fermée, c'est aussi pour des raisons politiques. Les États-Unis distribuent les visas au compte-gouttes, notamment pour ceux qui suivent des équipes de pays ennemis. L'exemple le plus criant, évidemment, c'est l'Iran. L'équipe iranienne a son camp de base au Mexique, mais ses matchs aux États-Unis, il va falloir passer la frontière 3 fois. Ça peut coincer à tout moment. Et puis hier, par exemple, même l'équipe sud-africaine a dû retarder son départ pour un problème de visa.
Et pour l'équipe de France, en revanche, c'est une Coupe du Monde ouverte.
Ouverte d'abord parce qu'elle est favorite et puis aussi parce qu'il y a une sorte de prophétie qui annonce que l'équipe de France sera battue en finale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des parallèles troublants avec ce qui s'est passé il y a 20 ans. En 2006, par exemple, Arsenal avait perdu la finale de la Ligue des Champions. Je crois me rappeler que c'était la même chose avant-hier. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France ne perdra pas contre l'Italie en finale, puisqu'on le rappelle, les Italiens ne sont pas qualifiés.
Mais ça, c'est vrai que c'est quand même fou et dur. Merci en tout cas Virginie. Le mondial de Virginie, c'est tous les matins sur RMC. Début officiel de la Coupe du Monde, c'est dans 10 jours. À suivre avec la Dream Team RMC, bien sûr, et nos 4 champions du monde, Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et Lionel Charbonnier. Dans un instant, les GG, Alain Marchal est là. Salut Alain, quel est le programme?
Bonjour à tous, les grandes gueules avec aujourd'hui Charles Consigny, Barbara Lefebvre et Laura Barton-Martinez. On reviendra sur les incidents, sur les violences après la finale de Coupe d'Europe, après le titre du Paris Saint-Germain. Pourquoi est-ce que chaque dispositif se fait déborder? 32-16 pour en parler avec les GG.